I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Va-t-on subir un burn-out jeu vidéo en mai et juin? La RTX 470 est-elle la carte graphique pour vous? Et Chia, Terranil, Raven's Watch, tout plein de choses tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu 289. Je suis Patrick Béja, nous sommes en avril 2023 et j'ai le plaisir d'être accompagné du célèbre compositeur de The Dystopian Thing, de son premier album, dont je ne dirai pas le nom parce que je ne parle pas assez bien islandais, Thomas Mehrer, alias Amaebi, est là avec nous. Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Salut Patrick, ça va super bien, je suis très très content de revenir après quelques mois d'absence, mais c'est avec grand plaisir que...
Quelques mois d'absence pendant lesquels tu étais très occupé,
un Oula, projet oui, secret. C'est peu de le dire. Ouais, c'est à moitié secret. Disons que j'étais sur l'écriture d'un livre, même de plusieurs livres, et c'est effectivement très prenant comme projet. Mais bientôt, je pourrais en dire enfin plus, mais voilà, je peux au moins dire que j'étais en train d'écrire un bouquin, c'est déjà pas mal.
Et ouais, c'est le teasing à étage. On commence avec j'étais en train d'écrire un bouquin et puis ça continue c'est après. Ça. Super, merci d'être avec nous Thomas, très heureux de t'avoir. On a aussi celle que je laisse en deuxième parce qu'on garde le meilleur pour la fin, Escarina est là aussi. Bonjour Esca.
Ça fait plaisir.
Moi j'ai l'habitude, tu sais, des fois c'est dans l'autre sens.
Non, mais c'est mérité, mais ça fait toujours mal. Tu vois.
C'est ça le problème en fait. Oui, la vérité est parfois cruelle. Comment ça va ?
Eh bien écoute, ça va très bien et je vais être particulièrement intéressée par ta virgule sur la 4070 puisque j'avais pour projet de m'en acheter une sous les bons conseils de notre très cher Fox Monsieur. Mais ça risque de ne pas être aussi évident que ça, on en reparlera tout à l'heure.
On en reparlera, j'ai vu ton tweet, effectivement c'est
un
une période
angoissée.
Particulière dans le domaine de... des enthousiastes du PC. Je voudrais, avant qu'on commence à parler de tous ces sujets chauds, commencer par vous dire deux choses. D'abord, remercier les Patriotes qui ont rejoint l'émission, la formidable bande des Patriotes. On a Rémi Village, d'une part, dont je suspecte que sa famille a choisi son nom pour honorer Resident Evil 8, et Jones Bidanas, dont le pseudo est d'une immense qualité à mon sens. Il en doute, moi je n'en doute pas. On a aussi le producteur Lancelot Davizard, qui est le producteur de cet épisode, qui le regrettera peut-être, possiblement. Enfin, il est producteur depuis un moment, hein, et il continue, donc il doit y avoir quelque chose qui lui plaît quand même dans l'émission. Merci à vous tous, patreon.com/rdvjeux, pour rejoindre cette formidable famille. J'ajoute aussi que le sondage des auditeurs pour 2023 est encore disponible pour quelques jours seulement. On a eu une quantité de réponses absolument phénoménale. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes qui avez répondu. Vous pouvez encore le faire. Il y a un peu plus de patriotes qui ont répondu que de non-patriotes. Donc si les non-patriotes veulent faire entendre leur voix, les auditeurs du gratuit veulent faire entendre leur voix, répondez à ce sondage. Le lien est dans les notes de l'émission. C'est pour ça voir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Le lien est dans les notes de l'émission.
Ça permet surtout de voir des photos incroyables.
Il connaît tout, Thomas. Écoute, tu es en train de remonter dans le classement des co-animateurs de cet épisode. Tu talonnes Esca, là, avec ce genre
aïe,
de...
Aïe, aïe, aïe.
Il y a des photos, effectivement... assez impressionnant.
C'est hyper important quand même. C'est hyper important.
C'est pour ça que les gens répondent.
Des setups de dingue quand même.
C'est pour ça que les gens répondent, avouons. Hein, soyons honnêtes.
Ah bah je pense, oui.
Et je voulais aussi mentionner le fait que... Alors Battle 4, vous savez, l'event caritatif qui aura lieu le week-end prochain, il est le week-end prochain. Et si vous aimeriez... Si vous comptez regarder un petit peu, que vous êtes un habitué, si vous serez sur Twitch à me regarder à ce moment, et que vous voudriez être modérateur du... A priori, moi, je me dis, on ne va pas avoir besoin de modérateur, mais on ne sait jamais. Si vous voulez être modérateur et que vous regarderez un petit peu au moins ce week-end, faites-moi signe, ça serait sympa d'en avoir, d'avoir quelques modérateurs. Je pense que les auditeurs et spectateurs, surtout du rendez-vous jeu, seront plus présents dans, pendant ce week-end caritatif. Et accessoirement, venez regarder, c'est de vendredi soir à dimanche fin d'après-midi. Je vais streamer encore plus que l'année dernière. Il y a des donation goals incroyables. Je vais vous en donner un, je vais vous en dire un, que je pense que je vais regretter. Ce n'est pas un goal spécifique. Il y a des trucs avec des jeux choisis par des personnes qui me veulent du mal, auxquels je devrais jouer. Il y a plein de goals marrants. Il y a un goal où je dois sortir faire un live dans la forêt avec les loups. Alors, je ne sais pas si je rencontrerai des loups, mais voilà.
Et est-ce qu'il y a encore de la neige en ce moment ou pas?
Alors, il n'y a plus de neige depuis 2 semaines, donc ça sera un peu plus facile. Et oui, Trinity, effectivement, a choisi un des jeux, ce que je vais, je pense, regretter. Et un autre truc, c'est le fil rouge. Ça va être mon vrai regret. Si quelqu'un donne 50 euros, c'est pas pour moi, hein, c'est pour une association caritative, avec Battle Force, c'est Handicap International et Premier de Cordée. C'est un event caritatif qui est focalisé sur les handicaps visibles et non visibles, donc une bonne cause. Et si, à chaque fois que quelqu'un va donner 50 euros, je vais faire, normalement, le nombre de pompes qui correspond à la quantité d'euros qui a été donné, moins 50. J'ai pas été fou, complètement, quand même. Genre,
d'accord.
Tu donnes 60 euros, je fais 10 pompes.
Il couvre ses arrières, quand même. Un tout petit peu.
Mais...
Des vraies pompes ou des pompes sur les genoux?
Ah non, mais des vraies pompes, tu rigoles ou quoi? Évidemment.
Moi, je ne sais pas faire des vraies pompes. Mais si.
Mais du coup, moi, je me suis dit, ça va, tu vois, 70 euros, ça fait 20 pompes, je peux les faire. Et puis après, je me suis dit, mais attends, s'il y a des petits malins qui donnent
des grosses sommes... Allô, Coffee 10 je veux du mal à Patrick Béja. J'ai besoin de 5 000 euros.
Si vous voulez financer votre cruauté, pensez à aller faire quelques économies d'ici la semaine prochaine. Les pompes, je ne garantis pas que je les fais toutes d'un coup. Hein. S'il y a quelqu'un qui fait...
Ah, ça y est,
il est déjà en train de...
Non, mais je les ferai, mais juste
de
pas...
De nous voyer, là, on sent
par
le
exemple,
qui
on suggère dans la chatroom, c'est le moment de donner 450 euros, tu vois. Bon...
C'est pour une bonne cause, Patrick.
C'est un peu dur. Mais tu vois, je me dis, par exemple, imaginons, un fou donne 450 euros. J'espère... Enfin, oui, j'espère. Calmez-vous, donnez genre 8 fois 50, par exemple. Mais... Si quelqu'un donne 450 euros, bon, bah, je ferai 400 pompes sur les heures qui vont suivre. Mais surtout, ça fait 450 euros pour la bonne cause. Donc, je ne peux pas le regretter. Bah, tu te rends compte? C'est fou.
Incroyable.
Mais ouais.
Donc, tu peux faire une pompe par émission?
Non. Il faut que je les fasse avant la fin du week-end. Ah, quand même. Je l'ai fait avant la fin du week-end. C'est juste que je ne les fais pas forcément à la suite. Bref, ça, c'est le week-end du 21 au 23 avril en live sur twitch.tv/notepatrick. Ma femme a la gentillesse de prendre les enfants chez sa mère. Donc, j'aurai tout le temps pour streamer. Ça laisse du temps pour faire des pompes aussi. Donc,
Et acheter du Saint-Ol.
Oui, j'ai commencé à m'entraîner à faire des petites pompes. Parce que je suis moins en forme que moi. En plus, je suis pas Thibaut in shape, tu vois. Moins en forme que moi, c'est difficile. Et j'ai commencé à m'entraîner. La première, genre il y a 4 jours, je faisais 10 pompes difficilement. Là, j'en fais 20 facilement. Donc, a priori, d'ici une semaine, je pourrais en faire au moins 30 d'affilée, tu vois. Donc, ça ira vite. Bon, je me berce d'illusions. Et... Vous savez quoi? On a des sujets jeux vidéo dont on doit parler avec des grosses news. Et on se lance tout de suite à propos de difficultés. Vous savez qu'il y a des jeux qui sortent en mai et juste en mai et en juin. Et juste pour le plaisir, je vais vous montrer un tweet sympathique que j'ai relevé de notre ami Johan, qui est le co-animateur de... Super Laser Punch, j'oublie les noms de mes émissions, on parle de trucs Marvel, etc. Il a gentiment collé les jeux qui sortent et qui prévoient son burn-out depuis début mai jusqu'à mi-juin, avec les plus en jour, genre combien de jours après le prochain jeu sort. Il nous dit Burnout JV prévu pour mai-juin, 2 mai, Redfall. Plus 10 jours, Zelda 2, Tears of the Kingdom. Plus 4 jours, Endless Dungeon. Plus 12 jours, System Shock. Plus 3 jours, Street Fighter 6. Plus 4 jours, Diablo 4. Plus 16 jours, Final Fantasy 16. Donc en gros, en moyenne, c'est toutes les semaines, il y a un jeu qui sort. Alors, System Shock, bon, ok, il y a des gens qui aiment. Mais je crois, ensuite il dit, sérieux, l'un d'entre vous ne veut pas sortir maintenant, là, histoire de décompresser ça. Quelqu'un a entendu ses appels à l'aide, puisque Endless Dungeon s'est vu reporter au 19 octobre, finalement. Donc, il aura du temps pour finir Zelda 2, et nous aussi, ce qui est peut-être pas plus mal. Mais on en parle depuis des mois, voire depuis des années presque, bon, depuis des mois. Effectivement, mai-juin, on le dit toutes les quelques semaines, ça va être compliqué, hein, avec toutes ces sorties.
Mais après, c'est des jeux pour des publics très différents, je trouve. Donc, des publics très différents. Tu vois, les gens qui s'intéressent à Diablo 4 ne sont pas les mêmes que ceux qui s'intéressent à Street Fighter 6.
Alors, je te présente Patrick Béja.
Oui,
j'allais dire, nous, on est des cas un peu particuliers, on a envie de jouer à tout.
C'est ça le problème. C'est que, effectivement, je crois que pour le grand, grand public, ce n'est pas des jeux qui visent forcément exactement les mêmes joueurs. Mais pour les auditeurs de cette émission, je crois, tu vois, ce type de public, ouais. Je pense que c'est la syncope en approche, quoi.
Ouais. Moi, à quelques exceptions près, effectivement, j'ai envie de tout tester.
On n'aura pas le temps de tout faire. Hein. C'est vraiment succession qui est incroyable. On pousse
mais
un
surtout,
peu un Red
Ce qui est assez ouf, c'est quand même... On parle d'un Zelda, on parle de Diablo, on parle de Street Fighter, on parle de Final Fantasy. Enfin,
c'est ça, c'est les quatre gros.
C'est licence complètement folle, et de se dire que ça sort en quelques semaines, enfin, c'est hallucinant, quoi.
Ouais,
au final, Endless Dungeon, moi, je le trouve quasiment anecdotique là-dedans, parce que ça s'adresse vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça s'adresse plus à une niche, et que c'est plus les gens qui ont connu Dungeon of the Endless qui vont être un peu hypés. Mais...
Il a l'air cool, hein, Endless Dungeon, je sais plus, j'avais un trailer quelque part, il a l'air sympa, c'est une sorte de... un mix entre un Diablo et un Tower Defense, on va dire, quelque chose comme ça.
Alors, j'imagine que ça va reprendre le même concept que Dungeon of the Endless, qui était à peu de choses près, c'est le même principe, mais en pixel art, on va dire, graphiquement. Tu dois évacuer un prisme, c'est un jeu de science-fiction, tu dois évacuer un prisme et monter les niveaux. Alors, je sais plus si c'est une tour ou les descendre, enfin bref. Et donc, ouais, t'as un petit côté Tower Defense, t'ouvres les salles du niveau une à une, tu sais pas ce qu'il y a derrière, donc il y a un petit côté stratégique. Ben voilà, il y a toute une gestion de groupe à faire qui est vraiment très chouette et assez addictive. Et je ne sais pas si c'est juste une refonte graphique un petit peu plus à la mode et peu moins marquée que le...
Ouais, c'est une suite, c'est un style très stylisé de graphisme 3D. Et c'est, on va dire en gros, c'est oui, un petit peu un Zelda mode cartoon. Un Diablo mode cartoon. À 4 en coop et en tower defense en défendant le cristal. Ça a l'air cool, mais bon, du coup, on a le temps maintenant. On se calme, c'est bon.
Bah, se frotter à Diablo, c'était un petit peu tendu, peut-être. Quand même.
Exactement. Ouais. Et puis bon, comme ça leur laissera le temps de l'améliorer un petit peu. Bon, voilà pour le burn-out, potentiellement évité. Il faut avouer que ce n'est pas le jeu qui aurait pris forcément le plus de temps. System Shock, pareil, moi, je ne suis pas... Enfin, c'est le remake de System Shock, c'est ça? Bon, ok, sympa. Là, pour le coup, c'est vraiment un public de niche. Plus important pour les vrais joueurs, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont des joueurs, on va dire, qu'on accepte dans la communauté par charité, quoi, des gens qui jouent sur console, mais les vrais joueurs qui sont sur PC avec leur propre carte graphique, eh ben, je m'adresse à eux aujourd'hui, les gamers, voilà, les vrais, puisque Nvidia a annoncé la RTX 4070 et il y a, j'aurais... attendu une remarque outrée de votre part, mais clairement, vous êtes d'accord avec moi. Donc, très bien.
On est blasé depuis le temps. Hein.
C'est ça.
De se faire piétiner avec comme ça, cette condescendance vraiment étourdissante, je crois que au bout d'un moment...
On a l'habitude. Donc, Nvidia a annoncé la RTX 4070, qui est une carte graphique comme on en voit souvent, sauf que toutes les quelques générations, il y a une carte graphique qui est un petit peu le sweet spot, le meilleur deal pour la meilleure, les meilleures performances. La 970, c'était comme ça à l'époque. Moi, je l'ai gardée, je ne sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne me souviens plus. Et pour le coup, la RTX 4070, c'est vraiment cette catégorie. On est sur une vraie carte graphique de la série 4000 qui est puissante, qui a le DLSS 3.0. Souvenez-vous, le DLSS 2, c'est l'amélioration de la résolution par intelligence artificielle. Donc, ça fait une sorte d'upscaling formidable qui permet de calculer le jeu en résolution plus faible et qui l'upscale en... plus haute résolution de manière vraiment super convaincante, parfois même encore mieux que quand le jeu est calculé nativement à la résolution en question. Et le DLSS 3, qui est la nouveauté de la série 4000, c'est qu'en plus d'augmenter la résolution, il augmente la fréquence, c'est-à-dire qu'il interpole les trames d'affichage du jeu. Donc un jeu qui est affiché en 60 images par seconde, par exemple, eh ben, il peut l'afficher en raisonnablement, on va dire, 100 images par seconde ou 120 images par seconde, en fluidifiant le truc encore plus, sans que ça se voit, sans que ça soit mal fait, etc. etc. Et ben, la 4070, elle a cette dernière version du DLSS 3.0. Elle a aussi d'autres trucs comme le moteur d'encodage pour AV1, un nouveau type de codec, etc. Elle a quelques limitations par rapport à la 4080 ou 4090, mais c'est la carte la plus raisonnable pour l'utilisation actuelle. Notre ami Kassim le résume de cette manière. TLDR, il l'a testé pour Frandroid. TLDR, c'est une GeForce 3080 à 659 €, c'est le détail, hein, une paille. Une GeForce 3080 avec DLSS 3 et AV1. Ce qui veut dire que c'est toutes les choses dont 90% des joueurs auraient besoin et voudraient, sans le superflu. Alors évidemment, il y a cette partie, c'est 650 €. Les joueurs, les faux joueurs dont on parlait tout à l'heure vont me dire « Attends, pour ça, j'ai une console next-gen, plus
combien
une Switch,
de pompes, Patrice, pour une RTX 4070 ?»
Combien de quoi ?
Combien de pompes si...
Écoute,
maintenant, c'est comme ça. En fait, maintenant, c'est le
maître étalon.
Notre nouvelle monnaie.
Du coup, si vous calculez bien, ça fait 609 pompes. Bon, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Mais il faut avouer que les cartes puissantes de ces dernières générations, elles étaient encore plus chères que ça. On était à 900, 1000, plus de 1 000 €. Et du coup, celle-là, on va dire que c'est sans doute le meilleur deal. En plus, elle est petite, c'est-à-dire qu'elle prend la place que de 2 cartes dans votre PC, au lieu de 3 comme la 4080 ou 4090, ou enfin toute la place de la caisse. Et évidemment, c'est la carte, hein. C'est-à-dire que pour vous monter un PC, il faut mettre encore le double en plus pour avoir le PC complet. Mais il n'empêche, si vous êtes un vrai joueur de jeux vidéo sur PC, eh ben c'est sans doute la carte qui vous fait les rêver et qui est la plus accessible. J'ai mon Exhibition One, ma première pièce à conviction, Escarina, qui va vouloir s'en payer une.
Ben, c'est ça. Écoute, j'ai fait la bêta de Diablo 4 là, il y a 2-3 semaines et j'ai été confrontée à la réalité que j'ai malheureusement trop longtemps repoussée, qui est que voilà, mon PC avec sa 970 arrive vraiment à bout de souffle et que voilà, même en qualité minimale, Diablo 4 c'était compliqué et qu'il est peut-être temps de passer à la caisse. Donc c'est financièrement pas le meilleur moment pour moi parce que je suis en plein dans les travaux, mais en même temps, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse.
Dire. Tu vois, il y a des impératifs, des impératifs de vie. Dans c'est comme ça qu'on, comme je disais, on reconnaît
une salle de douche où pouvoir jouer à Diablo 4. De toute façon, je me laverai plus. Donc, si tu veux,
tu t'y retrouves, quoi. C'est un équilibre de vie à trouver, quoi. Après.
Donc, du coup, je me suis tournée vers la meilleure personne sur Terre pour me conseiller une config Fox Monsieur, qui en 3 minutes et demie m'a pondu une liste Amazon.de en me disant tiens, tu prends tout ça. Demain, il y a la 4070 qui sort. Tu la prends en Founder sur le site de Nvidia et roule ma poule. Ce sera nickel. Je lui avais dit mon budget, c'est entre 1000 et 1500 et je veux être tranquille 5 ans. Et donc ce matin, naïvement, je vais sur le site de Nvidia et là, je vois que bah, déjà, il n'y a plus de stock. Et en regardant un petit peu, il faut que j'attende 15 heures pour aller sur LDLC et matériel.net, qu'il n'y a pas une 4070, il y a 16 modèles différents avec des OC, dual truc, je ne comprends rien. Et je me dis, ok, donc déjà, il va y avoir des prix forcément supérieurs à 650 €. Et en plus, ça va partir comme des petits pains et je vais devoir me battre. Donc, je suis déjà fatiguée d'avance. Donc,
je dirais que d'ici juin, tu pourras en choper une, je pense. Il y a différents modèles, effectivement, de différents constructeurs. Tu pourras en choper une. Il y en aura des moins chers aussi, hein, mais il vaut peut-être mieux regarder les tests. Aujourd'hui, elles se ressemblent toutes quand même. Mais,
Ok, donc si j'attends, on va dire que si j'attends un mois ou deux, j'aurai des trucs.
Ce ne sera pas la guerre
comme aujourd'hui, quoi.
Non, ça ne sera pas la guerre. Hein, surtout que les cartes graphiques sont moins demandées vu que les crypto-monnaies sont moins populaires.
Ça, c'est trop bien.
Mais, alors, je dirais deux choses. D'une part, deux mois, tu vas rater la sortie de Diablo 4, ce qui est quand même problématique.
Ah, oui. Un mois,
ça, tu pourrais possiblement. Bah, le problème, c'est que, comme je disais, il y a des moments, enfin, il y a des modèles de cartes graphiques qui sont la carte que tout le monde veut. Et là, c'est l'alignement des planètes. La 4070, tout le monde va la vouloir. Mais bon, ensuite, Nvidia, ils peuvent produire, tu vois. Donc, je pense que d'ici quelques semaines... Enfin, mets-toi dans la queue pour la Founders Edition, tu vois. Ne dis pas, oh, je la trouverai ailleurs.
Non, c'est ça.
Mets-toi
dans la queue. C'est ça. Mais il n'y a pas de système de queue sur le site de Nvidia.
Ah, bon,
Moi, ce que je me dis, c'est que dans l'idéal, je vais attendre qu'il y ait effectivement cette Founders Edition qui soit dispo. Mais je me dis... Moi, je suis à des années-lumière de toutes ces problématiques-là. Je ne sais pas combien de temps ça veut dire qu'il va falloir que j'attende, tu vois. Bon, a priori, ce n'est pas aussi pire que ce que j'imaginais, mais...
Quelques semaines, je crois que ça ira. Tu trouveras un modèle quelque part. Je ne te dis pas que tu trouveras la Founders. Hein. Mais il y a...
Oui.
Ouais. Mais l'autre chose importante à signaler, c'est que tu te rends compte que ta PS5 que tu as déjà, elle fait tourner Diablo 4 très très bien. Hein.
Alors, oui, mais... c'est l'éternel combat, est-ce que je préfère jouer à la console ou sur mon PC? Le problème de la console, c'est qu'elle est sur la télé familiale, qu'un jeu comme Diablo, c'est un jeu solo, et c'est très compliqué pour moi aujourd'hui, en soirée, quand c'est le moment de la journée où toi-même, tu sais, tu commences à te détendre et à pouvoir profiter un petit peu de tes loisirs personnels, dire à mon mari, va jouer ailleurs, moi j'accapare la télé, parce que c'est vrai que je suis complètement d'accord avec J.K., le gameplay manette de Diablo 4 est top,
est donc...
Je l'aurais complètement envisagé. Là, c'est vraiment beaucoup plus le côté pouvoir m'isoler et pas squatter la télé. Et surtout, c'est quand même un jeu auquel tu parles au micro. Donc, je sais déjà que même si mon mari reste avec moi, je vais lui casser les pieds à être avec mes potes. Donc, pour ma façon de consommer le jeu vidéo, c'est plus approprié sur PC que sur console.
Alors, écoutez, quand vous voyez une carte graphique RTX 4070 disponible quelque part, où que ce soit, allez sur Twitter et envoyez un bonjour à Esca.
Mais tu fais combien de pompes, Esca, dans ce cas? Toi, c'est quoi ton ratio, toi?
Moi, je fais des abdos, je fais pas des pompes.
Ah, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus.
Ah bah, celui qui m'offre une Founders Edition, moi, je fais 500 abdos, il n'y a pas de problème.
500 abdos, d'accord, très
500.
Bien.
Bon, bah, 500.
Tu enregistres, Patrick.
Ah bah, bien sûr, bien que j'ai une preuve.
Très bien, donc voilà pour la RTX 4070. La dernière grosse news du jour, c'est Super Mario Brothers qui bat tous les records au box-office, enfin tous les records de films de jeux vidéo, qui, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années, aujourd'hui sont plutôt populaires. On a vu des films comme Sonic, mais aussi Uncharted, qui ont vraiment bien marché. Et donc là, il a fait mieux que tout cela au box-office US. Ce qui veut dire... Alors ça, c'est cool, mais moi, je ne l'ai pas vu encore, hein, malheureusement. Il était, je ne sais plus si j'en parlais la semaine dernière. Il est dispo qu'en suédois et en finnois dans mon petit magasin, mon petit ciné du quartier. Et donc, je vais pas aller regarder ça. Mais... Parce que je ne comprends pas assez bien quand même le suédois. Mais... ça pose quand même la question de quand on rentre 377 millions de dollars en un week-end, on veut refaire le truc. Et donc, est-ce que Nintendo va commencer à nous sortir d'autres films basés sur ses propriétés intellectuelles? D'abord, peut-être un Super Mario Bros. 2.
Ah bah, je crois que c'est déjà acté, me semble-t-il.
Ça ne surprend pas.
99% de chance, je crois, pour que... Enfin, je crois que Illumination a déjà plus ou moins confirmé le fait qu'il bossait. Je crois même le truc est en post-prod actuellement. Donc,
En post-prod déjà, oui, d'accord. Oui,
je crois que c'est déjà acté, me semble-t-il.
Pas très étonnant.
Ce ne serait pas très étonnant, quoi qu'il arrive, de toute façon.
Ça nous permet de rêver. Est-ce que d'autres
films Zelda.
Nintendo. Bah voilà.
C'est ça. Voilà. Un film F-Zero.
Écoute, tu sais quoi, mine de rien, F-Zero, ça serait pas impossible. Mais non, il y a des trucs. Zelda, alors Metroid, c'est pas la licence la plus populaire de chez Nintendo, de loin. Zelda, c'est pas mal. Alors, Mario Kart, c'est Mario. Mais par exemple, Splatoon. Splatoon, hyper populaire au Japon. Méga giga populaire au Japon. Un peu moins chez nous, mais tout de même. Bon, il y aurait des trucs. Est-ce que vous voudriez voir un film, un autre film Nintendo au ciné?
Zelda, ça me chaufferait bien. Ouais, je serais curieux en plus de voir quel DA il pourrait, vers quel DA il pourrait aller, parce qu'il y a largement le choix. Ça pourrait être hyper intéressant. Les autres, là, spontanément, comme ça, en plus, mais ça permettrait de faire un petit peu d'ordre dans le lore de Zelda qui est un petit peu complexe. Donc, ce serait peut-être l'occasion scénaristiquement d'aller faire
une timeline canon.
C'est ça, exactement. Bon, alors, on a fait une timeline, ça y est, on est à peu près d'accord. Celui-là, c'est avant celui-ci.
Ouais, moi, je compterais pas trop là-dessus. Hein. Une histoire Zelda, déjà, ça serait. Est-ce que ça serait une histoire originale ou il prendrait. Bon, il prendrait peut-être l'histoire de base, je sais pas. Mais du coup, il commence avec ça. Et puis, à un moment, peut-être réunir
un super
Smash
Bros. Oh,
mais c'est
là.
Ça, exactement.
Oh là là. Le Infinite Wars. Super Smash Bros. Infinite Wars. Non, mais là.
Mais en plus, vraiment, ils ont de quoi, Nintendo ? Parce que c'est des choses qu'on sait, nous, depuis longtemps. Il y aurait de quoi faire des films super cool et des trucs sympas, mais c'est vraiment vrai. Nintendo a plein de propriétés qui pourraient transférer au cinéma. Et alors, j'en sais rien, il y a plein de trucs plus anciens, mais des Pikmin, des Kid Icarus, il y a tout à faire.
Un Metroid.
Mais
un
Metroid,
film Metroid, ce serait complètement gueudin.
Mais oui, c'est ça. Donc, écoutez, il est à peu près certain que. Alors, je vais faire plaisir à certains d'entre vous. Chez Nintendo, ils ont vu ce résultat dans leur QG à Kyoto. Et il y a certains d'entre eux qui se sont réveillés au milieu de la nuit et qui se sont dit « Mais on aime l'argent !» Et du coup, ils se sont dit « On va faire plus de films !» Voilà, le choix, c'était « On fait plus de films et on a plus d'argent » ou « On fait pas plus de films ou on a juste tout l'argent qu'on a maintenant. » Et bien, dans leur logique, ils se sont dit « On va faire plus de films pour avoir plus d'argent. » Et je crois que c'est une logique assez inévitable, quoi, assez imparable. Bon, oui, entre parenthèses, on parlait de Avengers avec Smash Bros. Vous avez vu l'annonce de le Resident Evil Death Island, où ils vont tous sur Alcatraz, et où c'est genre tous les personnages des différents Resident Evil qui se retrouvent. Vous avez vu ça ou pas ?
J'ai croisé ça, mais j'avoue que mon intérêt pour Resident Evil est pas dingue, et donc ça m'a un peu traversé. Voilà, j'ai pas eu plus d'intérêt que ça pour le truc.
Ça va sortir qu'au Japon pour le moment.
Ça a l'air singulier, disons.
Mais il y aura Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers, je la connais pas, j'ai peut-être pas fait assez de Resident Evil, Claire Redfield et Leon Kennedy qui se retrouvent ensemble pour aller sur Alcatraz. C'est un film en 3D, t'as l'impression qu'il l'en fait genre dans le RE Engine version
Switch. Ah ouais,
Switch.
Il est pas c'est très assez bon. Dégueulasse, on va pas se mentir. Ouais.
Bah c'est bien là, tu me l'as vendu.
Bon, donc il y a ça aussi. Et puis il y a un webtoon Assassin's Creed qui arrive également. Donc voilà, les médias, jeux vidéo envahissent tous les médias partout, on le savait. Eh bien, écoutez, c'est tout pour nos grosses news. Je vais vous rappeler tout de même que si vous appréciez nos divagations, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/rdvjeux et donner des sous-sous. Parce que nous aussi... Attends, je retrouve le bouton. Parce que nous aussi, mais on aime l'argent. Et oui, et j'aime bien acheter des couches pour mes enfants et à manger aussi. Donc, si vous voulez soutenir et d'autres choses, genre des RTX 4070, tout ça. Et donc, si vous voulez nous soutenir, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Non seulement vous avez des bonus cool, comme du contenu supplémentaire, l'absence de pub dans l'émission, etc. Et même cette petite partie promo au milieu, vous ne l'avez pas. On l'excise de la version sur du flux privé. Mais en plus, vous avez le plaisir de soutenir des créateurs que vous appréciez. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com/rdvjeux. et sur tous les lieux de communauté où on vit tous ensemble notre plaisir de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Escar?
Non, mais entre ça et l'excision, je suis un peu troublée.
Ôtez le super gamer site d'Escarina, enfin. Nous ne sommes pas comme ça chez dans le rendez-vous jeu.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, eh ben écoutez, on va passer au jeu auquel on joue en ce moment pour essayer d'oublier, de d'effacer de nos cerveaux les images évoquées par Escarina. Alors,
ça va être ma faute bientôt.
Un petit peu quand même. Hein. Bon, alors, Thomas, je me retourne vers toi maintenant. Mon gars, t'as intérêt à être bon. Parce que vu comment tu m'as saoulé avec Chia depuis trois semaines, j'espère que je vais en ressortir avec des étoiles dans les yeux de ta discussion sur Chia. Faut avouer qu'il a été particulièrement applaudi, ce jeu. Qui est sorti il y a, trois semaines, par la communauté. Et bah, on n'en a pas du tout parlé ici. Personne, aucun des intervenants n'y avait joué. Donc, c'est l'occasion de réparer cette injustice. Et en plus, tu as beaucoup aimé ce jeu, toi, n'est-ce pas ?
J'ai beaucoup aimé, ouais. Alors, je crois qu'il y a un double phénomène de mon côté. C'est que d'une part, le Chia, on l'a découvert il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, 2020, lors d'un showcase PlayStation. Et il a fait forte impression, c'était super beau. Et de mon côté, quand le premier trailer, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai eu ce petit truc de me dire, méfiance. Je commence à devenir vieux et aigri, je crois. Et du coup, quand je vois arriver ce truc, c'est eye candy comme ça. J'ai un petit truc qui tilte en haut et qui est un petit peu méfiant. Et du coup, je l'ai encore plus pris comme une vraie surprise en le découvrant. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de me dire qu'il n'y a qu'à peine une douzaine de personnes derrière. C'est vraiment une toute petite structure. On doit le jeu au studio Awaseb, qui est un studio français qui est à la fois entre Bordeaux, Montréal, et dont les deux fondateurs sont originaires de Nouvelle-Calédonie. Et de se dire qu'aujourd'hui, tu as une douzaine de personnes, un petit peu plus, parce qu'ils ont, il y a ensuite un peu de sous-traitance, etc. quoi. Mais voilà, la core team, c'est vraiment 10-12 personnes. Et de se dire que de réussir à sortir un jeu pareil aujourd'hui, je trouve ça assez incroyable. Et donc oui, alors Nouvelle-Calédonie, c'est hyper important dedans parce que en gros, ce jeu, c'est vraiment une lettre d'amour à ce territoire. Les deux fondateurs voulaient vraiment mettre en avant leurs origines, la culture de Nouvelle-Calédonie, que à titre personnel, je ne connais pas très bien, même voire pas du tout. Et franchement, c'est une vraie plongée dans une sorte. Alors, c'est pas la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel inspiré d'eux. Mais en fait, on retrouve des chants, on retrouve la langue, on retrouve les musiques, les plats. Donc, il y a une vraie plongée comme ça. Et puis, évidemment, la végétation, la luxuriance, la faune, la flore, enfin, vraiment tout. Et en fait, on est dans une sorte de mini. Alors, on compare souvent, c'est pas faux, une sorte de mini Breath of the Wild tout petit et qui est vraiment assez incroyable. Ce que j'ai trouvé assez dingue,
c'est un jeu d'aventure 3D.
C'est un jeu d'aventure, qui est vraiment très axé exploration quand même. Et il y a vraiment ce côté découverte d'un open world un peu au hasard des découvertes que tu fais en fait. C'est-à-dire que tu te promènes, tu vois un truc au loin, tu as envie d'y aller. Et le truc vraiment distinctif au niveau du gameplay, c'est que Chia, donc la jeune adolescente qui est l'héroïne de cette aventure-là, elle peut en fait s'incarner dans les animaux et la plupart des objets qui l'entourent. Donc si tu vois un petit caillou, si tu vois une petite mouette passer au-dessus de toi, ou si tu vois une lampe tempête, tu peux en fait d'un clic te faufiler dedans et te transformer donc en chauve-souris, en planche de bois. Et en fait, ça aide à plein de trucs. Déjà pour le traversal, ça c'est incroyable parce que du coup, bah, bien sûr, tu peux te transformer en requin, tu peux te transformer donc en oiseau, donc voler littéralement au-dessus de l'open world. Il y a une limite de temps. Il y a une limite de temps. Limite de temps qui, c'est très malin, peut bien sûr augmenter au fur et à mesure du jeu via un à côté, via en fait une boucle de gameplay à part entière. Tu vas dans des temples, vraiment façon Zelda, qui va te permettre de débloquer une jauge supplémentaire. Il y en a 8 en tout, je crois, supplémentaires. Et donc, en fait, rien que ce petit truc de se dire tu peux te transformer en tout ce que tu veux, il y a un côté un peu immersive sim, ça m'a fait penser un peu à Prey que j'ai fait il y a pas très longtemps, où tu te transformes en mug pour rentrer dans une porte. C'est exactement pareil, tu te transformes en caillou, ça te permet de te faufiler à l'intérieur d'une petite grotte auquel tu n'aurais pas accès. Quand tu es un petit crabe, bah avec ta pince, tu peux casser des chaînes en métal. Quand tu es une chauve-souris, avec un clic, tu peux voir la nuit. Enfin, il y a vraiment plein de petites subtilités comme ça, et je trouve ça assez dingue de toute cette ingéniosité qu'ils ont mis. Ils sont vraiment allés chercher plein de trucs. Alors, la limite, c'est que c'est la limite du scope du jeu qui reste avec une envergure pas ouf, mais ils ont bien maîtrisé ça. C'est-à-dire qu'on a une aventure de 15-20 heures qui est assez restreinte du coup pour un open world. Donc le gameplay n'est peut-être pas exploité à donf de ce qu'il pourrait, mais c'est quand même ultra plaisant. Il y a vraiment plein de choses à voir, à faire. En gros, l'histoire du jeu, ça commence avec pas mal de trucs quête FedEx, hein, globalement, c'est-à-dire que tu vas d'un village à un autre, on te dit tiens, va me chercher ci, va me chercher ça, et c'est toujours en fait déjà hyper plaisant parce que c'est vraiment lié à la culture nouvelle-calédonienne. Donc tu vas aller chercher des trucs pour faire un plat, pour aller offrir au chef d'une tribu particulière, etc. Et au fur et à mesure, en fait, le propos du jeu va noircir un petit peu et tu vas découvrir des mécaniques un peu plus de combat qui m'ont étonné, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça. Et en fait, le combat, bah, se gère avec ce même principe de se transformer, parce que les ennemis sont des personnages en tissu. Et donc, en fait, pour t'en débarrasser, tu dois les enflammer. Donc, il y a plein de manières d'y arriver. La principale étant de se transformer en un truc inflammable, généralement une petite lampe torche, enfin une lampe tempête. Et tu te projettes ensuite sur les ennemis pour y mettre feu. C'est ce qu'on voit là sur les images pour ceux qui nous regardent. Et donc t'as des sortes de comme ça de petits bastions, un petit peu comme on voit dans Breath of the Wild ou dans n'importe quel Far Cry ou ce que tu veux. Et donc voilà, il y a un mélange comme ça, exploration, action, et c'est vraiment très très bien fichu. Et surtout, vraiment, c'est ce qui m'a vraiment épaté, c'est que tous ces gameplays se répondent. C'est-à-dire que voilà, t'as toujours une raison d'aller faire un truc, d'aller débloquer quelque chose, d'aller fouiller, d'aller regarder, d'être émerveillé par ce que tu peux faire et tout. C'est vraiment vraiment génial, et le cadre du jeu est vraiment vraiment magnifique.
Ce que tu as l'air de dire, effectivement, c'est qu'on ne se limite pas au plaisir de l'environnement original, qu'on ne voit pas souvent dans les jeux vidéo, ou même aux gimmicks de gameplay, de pouvoir se transformer en un objet ou en un animal. Tu dis, il y a une maîtrise du game design au-dessus de ça qui fait que l'ensemble est cohérent et fonctionne et procure plus de plaisir que juste les features individuelles, quoi.
Clairement, puis il y a des trucs tout bêtes, mais je trouve que ça résume bien la philosophie du jeu. C'est que la boussole, par exemple, tu as une boussole et une carte pour te repérer dans l'open world, et en fait tu la lis vraiment, enfin Chia, notre héroïne, elle la lit vraiment comme une carte, c'est-à-dire que quand tu ouvres ta map, il n'y a pas l'icône qui montre l'héroïne. Tu cliques sur un bouton et il y a Chia à ce moment-là qui dit « Je pense qu'on doit être à peu près à cet endroit-là. » Et ensuite, tu regardes sur ta petite boussole et tu regardes autour de toi, tu dis « Ah ouais, il y a ça, etc. » L'appareil photo, il y a un appareil photo comme c'est un peu de mise dans pas mal de jeux maintenant. C'est pareil. T'as un appareil photo, tu vas devoir développer les photos. Donc tu peux utiliser plein de pellicules différentes qui vont avoir des effets sur tes photos, mais tu ne le verras que quand tu auras développé le truc. L'appareil photo, il a un trépied pour faire des selfies. C'est pas un mode comme on a maintenant dans tous les jeux où tu cliques sur un bouton puis à ce moment-là t'as ta caméra qui se met en extérieur. Là, tu poses ton trépied, tu prépares ta pose avec Chia, tu enclenches tu mets le déclencheur avec tant de secondes, etc. Et il y a, tu vois, tous ces petits trucs-là, pareil, la navigation, on a une sorte de petit bateau, de petit radeau à voile, tu tu vas d'abord hisser la voile pour mettre pour décider la vitesse de ton embarcation, et ensuite tu vas prendre le gouvernail. Les deux sont séparés, c'est tout simple, ça se fait hyper facilement. Mais tu vois, à chaque fois, ils ont vraiment pensé tous ces tout petits détails tout bêtes, mais qui renforcent l'immersion, je trouve, de dingue, parce que c'est pareil, t'as tes photos, bah tu vas les découvrir que quand tu vas aller dans un kit à certains endroits de la map où tu vas pouvoir développer tes photos, tu vas les découvrir qu'à ce moment-là. Et voilà, il y a tout ce truc à chaque fois de te dire, voilà, il n'y a rien qui t'est donné, et vas-y, découvre et immerge-toi là-dedans. Donc je trouve ça, j'étais vraiment épaté par tous ces petits détails, quoi. C'est dingue de se dire sur un jeu pareil, un open world aussi grand et avec autant de choses à gérer, enfin rien que l'aspect systémique et tous les trucs de gérer les animaux, la manière dont tu te transportes, tu te transformes et tout, c'est assez ouf, hein.
Du coup, je te pose la question que je pose systématiquement pour ce type de jeu aussi. Tu disais il y a des combats quand même par moment. Est-ce que tu crois que... alors, je suis sûr que ce n'est pas non plus les Resident Evil avec des zombies qui te courent après, mais est-ce que tu peux rester longtemps dans les zones sans combat, ou est-ce que tu es obligé d'y aller quand même à un moment ? Je te demande ça parce que mon fils a très peur de tout, et je me dis, ça pourrait être un truc super sympa à faire avec lui.
Bah ouais, et puis je vois Fanny dans le chat aussi qui pose la question, enfin qui évoque les enfants. Je dirais oui et non. L'exploration, aucun souci, bien sûr. Il n'y a pas du tout de problème. Les combats, ils sont vraiment... localisés dans des petits bastions, vraiment comme dans Breath of the Wild, et encore il y en a bien moins, ils sont vraiment à des endroits spécifiques, et dans le cadre de l'aventure principale, ça arrive que dans un deuxième temps. Donc il y a vraiment toute cette première partie qui peut vraiment être à fond, et puis globalement toute l'exploration. Par contre, à terme, effectivement, ou en tout cas pour aller jusqu'au bout, notamment la fin et le dernier niveau, là je pense il vaut mieux pas le montrer à ton fils pour l'instant, parce qu'il est un peu glauque en plus. Les combats demandent en plus un peu de doigté, parce que justement maîtriser l'aspect transformation, etc., il y a vraiment un feeling, moi je trouve hyper plaisant, il y a une dynamique assez dingue. En exploration surtout, c'est hyper cool, t'es tout le temps récompensé, il y a plein de tenues. Moi j'aime pas trop les trucs de collectibles comme ça où juste tu changes, et alors là j'ai adoré, il y a plein de coffres à fouiller partout, tu peux débloquer une nouvelle voile pour ton bateau, tu peux débloquer plein de fringues pour Chia, la chasse au trésor est incroyable. Comme tu vois dans Red Dead ou comme dans certains Assassin's Creed, t'as un dessin et puis tu dois retrouver sur la carte où tu dois aller et tout, c'est vraiment vraiment vraiment.
Il y a des éléments qui rappellent pas mal Sea of Thieves, je trouve, entre cet aspect chasse au trésor et la navigation à bord du radeau, là ça fait un peu penser à ça.
Et la musique incroyable, elle est trop belle.
C'est GOTY matériel, t'as l'air hyper enthousiaste.
Oh, GOTY, je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'on est sur une production. Bah voilà, le jeu est à 29,99, c'est pas. Enfin, tu vois, on sent le prix envoie le message du scope du jeu.
Ouais.
Mais quand on prend l'objet tel qu'il est, c'est-à-dire de se dire, on a 12 personnes, on a un petit open world, c'est un petit bonbon. GOTY matériel, j'irai pas là, surtout sur l'année 2023. Ouais. Enfin, on va se calmer. mais vraiment, vraiment, c'est un très très beau jeu à découvrir. Si cet aspect exploration, etc., vous tente. Et puis surtout, franchement, moi je l'ai fait donc il y a un mois et demi maintenant, parce que j'ai eu un petit peu en avance. On était encore en plein hiver, il faisait froid, etc. Puis là, t'arrives. À ce soleil incroyable, le soleil couchant, qui se reflète sur la mer avec des nuages complètement fous. Enfin, c'était vraiment, vraiment des vacances. D'accord. C'était super.
Chia, c'est disponible sous Windows et sur PlayStation. Et ça coûte donc pas très très cher. Ça s'appelle donc Chia, T-C-H-I-A. Ah. Merci Thomas. Bah, du coup, on va rester avec toi. Y a d'autres jeux auxquels tu as joué, comme Terranil, que j'avais testé la démo il y a un an peut-être, enfin, l'année dernière. Il est enfin sorti. C'est un River City Builder en quelque sorte. Il a fait un petit peu de bruit évidemment à sa sortie. L'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est que si je ne me trompe pas, il est inclus dans l'abonnement Netflix sur mobile.
Ouais. Non mais Netflix, doucement mais sûrement, les gars, ils ont un catalogue. Franchement, assez ouf. Hein. Limite, on ne le sait pas. Je trouve qu'ils communiquent pas des masses dessus, alors que, pardon, mais Oxenfree, 12 Minutes, Immortality quand même, t'as les gars, tout ça, et donc Et Point P aussi, génial, Point P, Lucky Luna. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs à découvrir sur Netflix. Donc oui, il est intégré dedans. Moi, je l'ai découvert parce que j'ai basculé, j'ai essayé de m'améliorer un peu en tant qu'être humain. et donc, j'ai basculé dans l'univers PC, mais par la petite porte, mais la porte maligne pour moi, en tout cas. Parce que, comme je te disais, moi, maintenant, j'ai un abonnement Shadow. Donc il y a le PC en cloud et donc ça m'a permis voilà, d'arriver discrètement dans ce petit univers et du coup de découvrir plein de trucs et en déléguant tout le problème des 4070, des trucs où il y a trop de chips. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3,
c'est quand même plus
là, 4070 et RXT machin, oh là là, ça va. Non, là, hop, j'allume Shadow, boum, je suis dessus, j'ai mon PC, hop, je m'estime et je découvre plein de trucs.
Ceci dit, et donc, oui. Même par rapport à PlayStation 5, on comprend bien que RTX 4070, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Moi, je dis ça.
Ouais, mais est-ce que par exemple, le 4500, est-ce qu'elle est mieux que tu vois? Enfin, moi, je comprends rien du tout.
Est-ce que tu prends la OC, la Dual Truc,
non, mais voilà,
la PUF, la.
Founders Edition, alors c'est.
Bon, parle-nous de Terranil, du coup.
Bon, bref. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça m'a permis voilà, d'enfin. Et donc, de goûter à plein de petits trucs. Et Terranil, ouais, enfin, vraiment, j'y suis allé. Moi, je ne suis pas, du coup, un très, très grand connaisseur. Venant du PC, ce n'est pas les City Builders. Ce n'était pas un gros truc. Et j'ai adoré, en fait, la proposition, le truc très écolo, quoi. Hein, ce côté nettoyer, entre guillemets, une zone souillée par l'être humain, parce que l'être humain est un salopard, on le sait bien. Et donc, effectivement, il y a cette double mécanique, t'es sur une terre, tu arrives sur une terre désolée, et l'idée, en fait, c'est de lui redonner vie en utilisant plein de trucs très technologiques, et ensuite d'effacer cette technologie. Donc, t'as vraiment deux phases de jeu. De construire tout d'abord tout un tas d'attirails, d'appareils qui vont permettre de nettoyer la terre, ensuite de faire pousser des biomes dessus, des forêts, des marécages, ensuite de découvrir des animaux qui peuvent y arriver, et ensuite tu dois déconstruire tout ce que tu as construit avec pareil, de nouveau, au fur et à mesure, en fait, tu débloques plein de bâtiments qui vont te permettre de détruire tout ce que tu viens de faire pour nettoyer et enlever complètement ta présence. Et il y a comme ça différents biomes. Le deuxième, par exemple, est très axé sur la mer, donc il faut nettoyer les océans. J'ai trouvé ça hyper plaisant, c'est très très joli. Il y a une DA très colorée, vraiment très très chouette, ouais, et vraiment cette mécanique en deux temps qui est vraiment bien fichue. Moi, je l'ai fait vraiment en mode, il y a trois modes de difficulté. Moi, je l'ai fait en mode touriste tranquille, où t'as pas trop la pression de gestion, parce que il y a presque un côté, c'est mon copain Mehdi qui disait ça, il y a un côté puzzle game en fait, plus que de gestion finalement, parce qu'effectivement il y a savoir vraiment bien placer quel bâtiment, parce que les bâtiments interagissent entre eux, etc. Donc il faut gérer à la fois tes ressources et puis comment tu vas positionner tout ça sur ton art de jeu. Donc c'est vrai qu'il y a un côté presque puzzle et stratégie dans la manière dont tu vas penser tout ça, et j'ai trouvé ça très chouette. Puis le message est joli quand même, globalement. Donc, très, très, très sympathique.
Le packaging visuel fait super envie, je trouve. Il est vraiment super engageant.
Bah, vous mettez ça, vous écoutez en même temps la musique de Thomas Mehrer, par exemple. Vous êtes pile dans la bonne ambiance. C'est vraiment... c'est un city builder, mais effectivement, c'est de ce que j'en avais fait, c'est relativement light, c'est très accessible. D'ailleurs, Thomas, qui dit que ce n'est pas le genre de jeu auquel il joue habituellement, n'a pas eu de difficultés. Et bon, pour un abonnement, pour un truc présent sur l'abonnement Netflix, c'est pas hyper surprenant. Mais oui, donc c'est presque puzzle game, effectivement, pour savoir où placer le truc, comment l'organiser de manière à ce que tu puisses les supprimer ensuite. Ça fonctionne bien. C'est disponible sur Windows et mobile, iOS et Android.
Ouais, et petite précision, hein, parce que je vois qu'il y a dans le chat, il y a Jalonimo qui demande pour Netflix. C'est vrai que finalement, on ne sait pas trop. Oui, dès que tu es abonné Netflix, tu as accès au catalogue de jeux. Sur iOS, par exemple, tu vas directement... Tu passes par l'application Netflix et ensuite, ça t'emmène sur l'App Store et où tu peux télécharger gratuitement les jeux qui sont liés avec ton abonnement. Et c'est intégré totalement gratuitement, il n'y a pas de surcoût. Mais c'est vrai qu'ils communiquent très mal alors qu'ils ont un catalogue de dingue, quoi.
Enfin, ouais, c'est pas clair sur leur application, je trouve. Ouais, l'accès au catalogue de jeux, tout ça, c'est...
Tout à fait. Super. Quoi d'autre? Tu as aussi joué à Lunark, qui est, alors pour le coup, je peux le dévoiler, le jeu que, s'il ne change pas d'avis, il changera peut-être d'avis, mais le jeu que JK a choisi pour le jeu auquel je dois jouer, si on atteint un certain palier pendant le Battle 4. Et évidemment, puisque c'est un jeu que JK a choisi, c'est un truc avec des pixels, avec des trucs super vieux, genre on n'a pas vu ce genre de choses depuis 1992. C'est quoi Lunark, dis-moi.
Lunark,
me spoil pas du coup, parce que si jamais.
Non. De toute façon, enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Lunark, c'est un projet de mené par Johan Vinet. Il l'a fait kickstarter, je crois, en 2019, et puis il sort que maintenant. Je pense que le développement a dû être un peu long et complexe. Et en gros, je pense qu'on peut le résumer en c'est Flashback 2 sur Game Gear. Franchement, Flashback 2 parce que bah clairement il s'inscrit parfaitement dans la lignée de ces des cinématiques platformers de l'époque, de Prince of Persia, de Netherworld, de Shai, de Flashback bien sûr, clairement hein, notamment les petites phases où tu collectes les objets et puis ça passe en avec des mini cutscenes comme ça en 3D, enfin ultra pixelisé. Et ouais, Game Gear, parce que vraiment c'est très très pixelisé limite. Moi sur mon écran, je me suis mis en j'ai diminué la résolution, enfin parce que tu peux changer de mode d'affichage pour que l'image soit un petit peu plus petite à l'écran. Et moi ça m'a rappelé ouais ma Game Gear où je cramais 6 piles par demi-heure pour jouer, parce que vraiment c'est des très très gros pixels. Et c'est vraiment Flashback. Il a, mais pas en mode plagiat, c'est-à-dire qu'on sent que voilà le mec s'est inspiré de tous ces jeux de l'époque. Donc on est sur de la plateforme aventure, pas évident, mais avec cette modernité de disposer pas mal de checkpoints au moment. Donc il y a une fluidité quand même dans l'aventure. Donc tu vas peut-être un peu te casser les dents, notamment le niveau du train qui est un petit peu chaud. Mais globalement, il y a cette modernité qui est apportée, voilà, notamment par l'aspect checkpoint. Et c'est hyper plaisant. Je sais pas trop dans quelle mesure, si on n'a pas connu effectivement les flashbacks de l'époque, les Prince of Persia, à quel point la nostalgie est vraiment limite un des premiers attraits que tu peux avoir pour ce jeu. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez ouf. Et ouais, un très joli clin d'œil à tous ces jeux-là. Dans un univers un peu comme ça, Blade Runner et tout, ouais, très très chouette, vraiment. D'accord. Vraiment sympa.
Bon, à la limite, tu vois, je suis quand même, je préfère ça à un point and click, donc je ne changerai pas d'avis, vu que c'est son style préféré. Mais ouais, du coup, ça me fait un petit peu envie, ça a l'air assez moderne quand même dans la conception, même si ça s'inspire largement de ces choses-là, comme tu le dis. Super, donc Lunark, et c'est disponible là pour le coup sur toutes les plateformes, hein, Switch, Windows, PlayStation, Xbox, etc. On va maintenant se retourner vers Escarina, qui elle aussi a joué à des trucs, mais alors tu nous fais un petit peu un trip patient gamer quand même, toi, hein. C'est des choses qui sont pas sorties hier.
Oui, en fait, j'ai éclusé mon backlog Steam. J'ai essayé de terminer les derniers jeux que j'avais eus aux alentours de Noël, tu vois, ça remonte, et auxquels j'avais pas joué. Et déjà à l'époque, quand je les avais eus, c'était presque du rétro gaming. J'exagère un peu, mais. Donc voilà, mais c'est trois jolies découvertes. Alors, le premier, effectivement, c'est Look Inside. C'est un jeu qui est fait par le studio Unexpected, qui est, je l'ai appris plus tard, le studio de Zerator, fondé par Zerator. J'en avais absolument aucune idée quand je l'ai lancé. Et vu que de toute façon, je ne suis pas Zerator plus que ça, je t'avouerai que ça m'en touche
bah,
une
sinon
fois.
Tu
bon,
sinon, tu
oui,
sors en même temps.
Oui, voilà. Du coup, c'est un petit jeu d'énigmes. On a un arbre généalogique à reconstituer. On joue un personnage qui, en fait, va redécouvrir plein de souvenirs de famille éparpillés dans des scènes. Et donc, il y a plein de petites énigmes. Alors, il n'y a aucune indication qu'il faut tout comprendre soi-même. En fait, c'est en farfouillant un peu, en touchant à tous les objets du décor, qu'on va trouver des indices qui vont nous permettre de reconstituer l'arbre généalogique. Donc, de comprendre si ce personnage-là est plutôt l'enfant, la mère ou la grand-mère. Il y a des petits pièges parce qu'en fait, il y a des éléments, tu as l'impression que c'est contemporain. En fait, tu te rends compte un peu plus tard dans l'histoire que les photos qu'on voit, c'est des photos qui datent des années 80. Donc, c'est assez bien fichu. C'est un petit jeu de piste. C'est super mignon. Visuellement, j'ai trouvé ça assez réussi. C'est des expériences qui me font un petit peu penser à... du coup, forcément, je vais plus retrouver le nom. Ce jeu qui a été fait par Accidental Queens sur un téléphone...
Another Lost Phone.
Ouais, merci.
Normal Lost Phone et puis ouais, Another Lost Phone.
Ouais, tout à fait.
Ah, c'est cool.
Ça me fait un peu penser à ce genre d'expérience. Alors, ça dure 2-3 heures. Je trouve que les énigmes sont dans l'ensemble plutôt bien faites. Il y en a certaines qui sont un peu plus tordues que d'autres. Donc, ça va toucher tous les types de joueurs. Les joueurs qui aiment bien avoir du fil, un petit peu de fil à retordre vont pouvoir s'y retrouver aussi. Donc voilà. Et c'est en plusieurs chapitres. Moi, je n'ai fait que le chapitre 1, mais il y a déjà un chapitre 2 qui est sorti. Et j'imagine qu'il y a un chapitre 3 en cours de conception.
C'est voilà. Un jeu qui est disponible sur Windows, sur Steam, et qui est bon marché. Hein. C'est un truc...
ça coûte moins de 10 euros, je crois.
Ouais, 7 euros.
Ça a l'air super chouette. Hein. Attends, la DA, elle est très, très belle. Hein.
Ouais, visuellement, c'est très cool. Sympa. Il y a une petite ambiance, même musicale, toute douce. C'est un petit jeu cocon. En plus, voilà, là, on voit typiquement dans les extraits que tu passes, ça fait appel à des... C'est assez nostalgique. Ça rappelle des époques des années 60, des années 80. Donc, il y a des visuels aussi, des ambiances qui sont très typées. C'est vraiment très chouette. Moi, j'ai passé un joli moment en y jouant. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que toutes les énigmes ont un gameplay un petit peu à part entière et du coup on s'ennuie pas quoi, il n'y a pas deux énigmes qui se ressemblent, il y a un côté un peu touche à tout que moi j'aime bien dans les jeux vidéo. Voilà, Look Inside.
Ça s'appelle Look Inside avec le K de Look et I-N différent, donc c'est Kin, genre famille. Look Inside.
Ah, je me demandais à quoi ça faisait référence.
Bah oui, Kin.
Kin, ça veut dire famille. Bah écoute,
famille, les gens liés par le sang. Your kin.
D'accord. Oui. Ok. Bah, tu me l'apprends. J'avais regardé sur internet, j'avais trouvé une, je sais plus quelle traduction. Je me disais.
Il ne faut pas regarder sur internet.
Pas compris.
Lost in Play, c'est le second jeu dont tu veux nous parler aujourd'hui.
Oui, alors toi qui n'aimes pas les point and click, du coup...
Va-t'en.
J'aurais peut-être dû... je reparlerai avec Giga.
Enfin, j'adore pas jouer au point and click, moi. Je suis pas genre allergique, je me roule pas en boule quand quelqu'un évoque l'idée d'un point and click.
Bon, ça va, alors. Tu as le droit d'en parler. Donc du coup, c'est un petit point and click qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui jouent. Et en fait, forcément, en jouant, ils s'inventent des mondes. Donc en fait, le concept du jeu, c'est qu'on les suit dans un monde qu'ils ont complètement imaginé et qui retrace les jeux qu'ils font à deux. Donc à un moment, il y en a un qui se fait enlever par des lutins dans une forêt. Il faut le libérer. Donc voilà, c'est... des petits point and click, on suit leur aventure. Donc le début, c'est, on le voit là dans le trailer, la petite sœur qui réveille son grand frère. À la fin du jeu, l'après-midi se finit, ils rentrent chez eux et en fait toute l'après-midi ils ont joué ensemble, ils se sont inventés des mondes et tout le jeu tourne autour de ça. Donc là encore, on est un peu dans la nostalgie. Si vous avez des frères et sœurs, il y a forcément des choses qui nous rappellent des jeux qu'on a pu avoir ensemble. C'est pas un jeu encore une fois très long dans le type d'expérience, je trouve qu'on est un petit peu comme dans Look Inside. Et les énigmes, là par contre, sont vraiment pas compliquées du tout. Hein. Il n'y a aucun moment... Alors pourtant, moi, je suis du genre très facilement...
T'es pas super intelligente, tu veux dire. Donc,
je ne suis pas très intelligente, je vais très facilement voir les énigmes, les réponses des énigmes sur Internet. C'est là que je ne trouve pas de traduction pour le mot Kin, par exemple. Bon, là, pour Lost in Play, je n'ai pas du tout eu à le faire. C'est vraiment... Tu vois, là-dessus, je pense que JK, il serait très déçu parce qu'on est très loin d'un Monkey Island.
Non, mais t'es un peu en train de me le vendre parce que moi, justement, sur ce genre de jeu, ce qui me frustre, c'est... mais attends, tu prends le tournevis pour le mettre ici. Mais non, il fallait prendre le stylo que tu allais couper avec le couteau avant de l'amener. Enfin, c'est très old school. J'imagine que les point and click plus modernes ne sont pas comme ça. Mais du coup, oui, tu es en train de me dire qu'il n'a pas le défaut qui me frustre généralement dans les point and click, quoi.
Non, voilà, c'est très simple. Il y a un côté un peu Cartoon Network, je trouve, dans, le, dans l'esprit, dans l'ambiance. On dirait presque un jeu de Tim Schafer aussi, tu vois, on est un peu dans ces ambiances-là. Donc voilà, là non plus, hein, c'est pas, faut pas s'attendre à des heures d'histoire et d'énigmes. C'est une expérience assez courte, très simple, mais je trouve que la proposition est, est chouette, le propos est mignon et on passe un bon moment. C'est bien réalisé, il n'y a pas de moment hyper frustrant ou bloquant. Et ouais, visuellement, c'est assez chouette. Donc,
sur quelle plateforme ? Il est sur Switch au moins, mais...
Alors, je vais te dire ça...
Écoute.
Si c'est affiché. Oui, c'est ça. Switch, Steam et GOG. Donc, PC et Switch.
Super. Et le dernier jeu dont tu voulais nous parler, du coup, c'est un jeu dont le titre me plaît beaucoup... mais dont je ne sais rien, même si j'en ai entendu parler genre 12 000 fois. I was a teenage exocolonist, donc j'étais un adolescent exocoloniste, genre je vais coloniser d'autres planètes, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et tu as dû beaucoup en entendre parler parce qu'il a gagné énormément de prix, notamment pour sa narration. Donc oui, en fait, là, le principe, c'est que vous êtes effectivement un exocoloniste, donc vous êtes des colons de l'espace, donc des colons au sens colonisé, hein, je
ne voudrais pas insulter qui que ce soit. Mais est-ce qu'à personne n'avait pensé, bon, à part les... Ok, très bien.
Et donc, vous arrivez avec vos parents, vous êtes un petit...
En même temps, un jeu sur l'autre type de colons de l'espace, ça pourrait être intéressant aussi, mais... Ok, pardon.
Oui, tout à fait. Il y a des jeux, hein, des jeux South Park et des choses comme ça qui en parlent très bien. Donc, vous atterrissez sur une planète... avec toute une colonie de colons, enfin un groupe de colons, et vous allez devoir...
j'ai l'image mentale dans la tête, maintenant c'est horrible. Je vois des petits colons, bleu.
Je pourrais être désolée, mais en fait non.
Non, tu fais honneur à ton autre famille podcastique, c'est ça.
Oui, voilà, c'est petit clin d'œil. Alors, si je me rappelle bien, vous êtes né dans le vaisseau spatial, et quand vous atterrissez, vous êtes un enfant, hein. je crois que le personnage a moins de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc avec vos parents, vous allez devoir en gros terraformer la planète sur laquelle vous atterrissez. Et vous atterrissez sur cette planète avec plein d'autres enfants qui ont le même âge que vous. Et en fait, ce qui est intéressant dans I Was a Teenage Exocolonist, c'est que vous allez en fait suivre l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte de votre personnage, puisqu'en fait l'histoire se déroule sur... j'ai pas envie de dire de bêtises, 15 à 20 ans, je vais rester flou. Mais... Donc en gros, on voit, c'est un jeu narratif essentiellement, et on va suivre l'évolution des relations de votre personnage avec les enfants qui grandissent, les adultes qui vieillissent. Donc ça aborde plein de sujets, ça aborde des sujets autour de la sexualité, du deuil, de la politique, bien évidemment de comment on grandit, les choix qu'on doit faire dans la vie. Donc c'est un jeu qui pousse à la rejouabilité, puisque... Au début, dès le départ, on vous demande de faire des choix sur la création de votre personnage, des choix assez clivants. Donc, il n'y a pas deux parties qui vont se ressembler. Et toute la mécanique du jeu se base sur des choix de dialogue. Donc, forcément, vous n'aurez pas deux parties semblables. Et voilà, c'est assez déroutant parce que moi, au début, je pensais plutôt jouer un deck builder, puisqu'effectivement, il y a une mécanique de deck building qui, au final, est assez anecdotique. Par moments un peu lourdingue, c'est, je trouve, le défaut de ces jeux qui pourraient se contenter d'avoir un propos complètement narratif et qui rajoutent une surcouche de gameplay qui malheureusement alourdit un peu l'ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant que ça m'a saoulé ou quoi, hein, j'ai quand même passé un bon moment, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le jeu. Ce qui est de plus réussi, c'est effectivement la narration à embranchement multiples, et surtout je trouve qu'ils prennent entre guillemets des risques, c'est-à-dire que voilà, il y a des personnages qui meurent, il y a vraiment des choses qui se passent, quoi. C'est pas le monde des bisounours, alors qu'il y a un visuel qui est très guimauve, enfin on le voit là, c'est rose pastel, il y a ce petit visuel un peu manga kawaii presque, bah pas du tout quoi, enfin l'histoire elle est quand même plutôt sombre, et il y a des ressorts, il y a des
surprises. Là c'est pas à faire avec les enfants catégoriquement.
Non, pas vraiment. Par contre, je trouve que c'est vraiment un super jeu, à mon avis, pour les ados qui sont en construction. parce que il y a pas de jugement de valeur. Enfin, ça encourage vraiment à assumer les choix qu'on fait, à assumer ses différences. Il y a un discours vraiment très positif derrière tout ça, qui est très en phase avec la génération actuelle et qui fait du bien. C'est même si il y a des moments qui sont vraiment très sombres dans l'histoire, très durs. Enfin, toutes les histoires de deuil, tout ça, je pense que ça peut être assez dur. On en sort, je trouve. Enfin, moi, ça m'a fait quelque chose, quoi. L'histoire m'a pas laissé indifférente. Il y a des moments qui sont assez émouvants. C'est vraiment bien, bien fichu.
C'est enchaîné avec The Wreck. T'as fait The Wreck.
Alors, je l'ai pas fait, mais il est dans ma liste, dans ma wishlist. Donc, ouais, je le ferai.
C'est aussi des thèmes un peu difficiles. Mais tu as parlé de la narration et de la manière dont, il était très apprécié pour sa narration. Mais ce qui est intriguant quand tu en parlais, c'est le fait que toute la colonie vieillit avec toi.
Ouais.
Et du coup, vraiment, tu vas suivre sur ces 15 ou 20 ans l'évolution de ton personnage et de tout ce qu'il y a autour. Tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus, parce que c'est la partie qui a l'air vraiment... est-ce que si tu fais tel ou tel choix, ça peut vraiment changer la manière dont 10 ans plus tard, il se passera un truc? Ou est-ce que c'est très narratif, tu suis une ligne et puis c'est ton personnage qui va réagir différemment à ce qui se passe? Ou comment ça se passe?
Alors, moi, je n'ai fait qu'un seul run, mais donc j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, la structure du jeu laisse vraiment à penser. Par exemple, il y a un moment où tu peux t'impliquer politiquement dans la colonie. Tu peux au choix dire que tu ne veux pas te rebeller contre le gouverneur en place, ou que tu soutiens un de tes amis pour renverser le gouverneur en place, ou que toi-même, tu te proposes en tant que nouveau gouverneur. Et ça, en fait, tu as plus ou moins de choix de dialogue selon tes compétences que tu montes au fur et à mesure du jeu. En fait, si tu veux, le jeu, il se déroule par journée. Enfin, une journée correspond à une année. On va dire, tu as une journée où tu peux faire une action. Enfin, tu as un nombre limité tu dois vraiment orienter sur un type d'action. Et tu as un nombre de points de fatigue qui s'abaisse au fur et à mesure de ta journée. Et quand tu as terminé ta journée, tu clôtures et tu passes à l'année suivante. Donc, au fur et à mesure, tu vois aussi ton personnage se transformer physiquement.
Donc c'est 15 séquences ou 20 séquences de jeu au final, c'est ça? Ouais, 15 journées.
C'est ça, c'est une vingtaine de séquences de jeu où tu dois vraiment faire des choix, pareil, sur tes actions, tu peux pas... Et à un moment, ton personnage se politise, notamment sur comment tu influences la faune sur la planète. Est-ce que tu vas plutôt être pour tout cramer, ou est-ce que au contraire, tu veux surtout pas tuer les animaux, ce genre de choses. Et tu rencontres notamment à un certain moment le peuple extraterrestre qui vit sur la planète, et donc ça, c'est... Moi, j'ai fait un choix qui a eu des influences, donc je pense que oui, tu as plusieurs influences possibles dans le jeu. Et voilà, tu as des attaques récurrentes sur le fort, donc tous les, je sais pas, peut-être toutes les cinq phases, ta colonie se fait attaquer, et il y a une énigme derrière à comprendre, c'est pourquoi, au bout d'un moment, en fait, ton personnage, au lieu de juste se défendre, il se retourne vers les adultes et il dit, mais attendez, si on se fait attaquer par le peuple de cette planète, il y a peut-être une raison. Donc voilà, il y a vraiment le personnage qui mûrit aussi psychologiquement. C'est vraiment très intéressant. Donc je pense pouvoir dire effectivement, sans trop me tromper, que oui, il y a des choses qui peuvent radicalement changer la tournure du jeu selon tes choix.
On demande dans la chatroom si les sous-titres sont en français ou uniquement en anglais.
Ouais, c'est uniquement anglais. Ouais. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc... Soyez préparés. C'est pas un niveau d'anglais incroyable, mais quand même, quoi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça peut être compliqué.
Ouais, ils peuvent utiliser des mots compliqués comme kin, par exemple.
Par exemple, voilà. Et là, Google Trad ne suffira pas.
il est disponible sur partout. Lui, c'est Windows, Mac, Linux, Switch, PlayStation, mais pas Xbox. Donc presque partout.
Et il y a une super communauté autour du jeu, beaucoup de cosplay qui sont vraiment super chouettes, parce que le chara-design est
ouais, il a l'air cool,
très sympa. Mmh. Ouais. Donc voilà, c'est pas juste le jeu, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, les messages qu'il envoie. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de positif, comme ça vaut la peine d'en parler, quoi.
Mais est-ce qu'il y a un débat sur l'âge de départ à la retraite dans le jeu ou pas? Parce que comme il y a une sorte de gouverneur qu'on peut renverser, je me...
Ouais, et... malheureusement, ils ne vivent pas assez longtemps pour
malheureusement. Tu vois, est-ce que... Mais est-ce qu'on peut soutenir le gouverneur aussi? C'est ça qui est... Est-ce que c'est,
oui, tu peux. Possible. Tu peux tout à fait. D'accord. Tu peux dire, finalement, il est quand même pas si mal que ça, lui, avec ses 49.3.
Très bien. Donc, il est inclusif, le jeu, c'est bien.
Complètement.
Donc, ça s'appelle « I was a teenage exocolonist ». Je crois que c'est à peu près tout pour Esca. Pour ma part, j'ai joué à un jeu que j'attendais depuis un bon moment. C'est Raven's Watch. Raven's Watch, le dernier jeu de Pastek Games, qui est disponible en Early Access depuis la semaine dernière. C'est un jeu que j'attendais parce que j'avais pas mal apprécié leur précédent jeu, qui s'appelait Curse of the Dead Gods. Et j'en avais parlé ici une ou deux fois, c'était un jeu qui était vraiment, qui avait des super bonnes bases, qui était vraiment plaisant à jouer, un gameplay hyper solide. Et c'était un roguelite un petit peu, on va dire, qui se mettait entre Dead Cells et Hades, qui n'avait pas les moments de brillance de ces deux autres, mais qui était suffisamment bon pour que vraiment on s'intéresse à ce qu'allait faire le studio ensuite. Et donc, ce qu'ils font ensuite, c'est Raven's Watch, qui est disponible sur Steam, donc en Early Access aujourd'hui. Et je crois que c'est uniquement sur Steam. Et c'est un jeu qui a dans un style un petit peu différent, puisque c'est plutôt... un Diablo-like, qui a beaucoup d'inspiration de ce qu'il faisait dans Curse of the Dead Gods. Hein, c'est un domaine qu'il maîtrise vachement. Et dans ce style-là, en fait, l'idée est vraiment de faire un roguelite, un Diablo-roguelite. Et donc, on a le plaisir des Diablos, a priori, hein, on n'a qu'un seul niveau à ce stade, mais le plaisir des différentes classes de personnages qui vont aller détruire énormément d'ennemis. Sur le premier niveau, déjà, au bout d'un moment, ça commence à s'accumuler un petit peu. Et on a donc cette mécanique de roguelite où on va avoir à chaque partie un petit peu d'amélioration du personnage. Et on va être de plus en plus puissant par l'intermédiaire de différentes options d'upgrade qu'on va développer, qui se proposeront aux joueurs au hasard quand on fera la partie suivante. L'autre particularité, c'est qu'on peut jouer à 4 en coop, qui est, selon tout ce que j'ai entendu, la force vraiment du jeu. Moi, j'ai joué uniquement en solo et je l'ai plutôt apprécié déjà, mais visiblement, il est vraiment beaucoup plus fun en multi. Et l'autre élément, je vous parlais de Diablo-like, c'est qu'on a plusieurs personnages, plusieurs classes de personnages. Il y en a 6 aujourd'hui, donc 4 de base et puis 2 qui se débloquent ensuite. Et elles sont vraiment super différentes, comme dans un Diablo. Je dis Diablo, mais on est un petit peu à mi-chemin entre Diablo et un MOBA, en quelque sorte, parce qu'on a 4 capacités, plus ou moins 4 ou 5, et des petits gimmicks de gameplay pour chaque particularité de gameplay pour chaque personnage, pour chaque classe. Il y a un personnage, par exemple, qui est le petit chaperon rouge qui se transforme en loup-garou. Et il y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Quand on commence la partie, on a 5 jours avant que le méchant, grand méchant, se réveille et qu'on doive aller lui mettre sur la figure. Et ça se divise en cycle jour-nuit. Et ben, le petit chaperon rouge, il est le petit chaperon rouge la journée et le loup-garou la nuit. Et chaque classe a un truc de gameplay comme ça qui n'a pas du tout forcément à voir avec le jour ou la nuit. Mais il y en a, je ne vais pas vous les spoiler, mais il y en a plusieurs qui sont très différents, qui fait que chaque classe a vraiment son gameplay unique comme dans un MOBA, en quelque sorte. La dernière chose à dire, c'est que l'esthétique du jeu est basée sur une version, on va dire, corrompue, tordue, des contes de fées, merci, j'en perdais le nom, des contes de fées traditionnels, ce qui, moi, n'est pas forcément mon truc, je vous avoue, je ne suis pas super fan de ce genre d'ambiance et de ce genre de choses. Je me dis un petit peu, j'aurais presque préféré qu'ils fassent un truc original, mais en même temps, truc original, si c'est pour faire exactement ce que font tous les autres déjà depuis des années, ce n'est pas forcément la peine, donc peut-être que c'est la meilleure solution. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que le jeu était vraiment efficace dans ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire le gameplay, le gameplay, le gameplay. on a cette, cette progression dans l'appréciation qu'on a du jeu et du personnage ou de la classe qu'on va, ou, qu'on va jouer, qui est comparable à un Diablo ou un MOBA ou un Overwatch, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au début, on va mettre 10-20 minutes à comprendre comment fonctionnent les différents coups, puis on va comprendre comment ils s'agencent, et puis on va comprendre comment les bonus peuvent améliorer tel truc, et on va comprendre notre rotation. Et au bout d'un moment, on commence à prendre un plaisir à jouer le perso, un plaisir qui est indéniable, quoi. Sur les 6 classes, j'ai vraiment pris mon pied au bout d'une partie sur 3 ou 4. Alors il faut trouver la classe qui nous plaît plus que l'autre, mais vraiment quand on commence à comprendre comment elle fonctionne, comment elle est designée, le plaisir est absolument indéniable, et sur ce point, de ce point de vue, ça fonctionne totalement. Comme je le disais, il n'y a que là. Oui, vas-y.
Non, pardon, j'allais dire, tu parles du visuel un peu sombre des contes de fées. En fait, ça fait beaucoup penser aux comics fables, pour ceux qui connaissent, dont le concept est justement de reprendre les personnages de contes de fées, mais sous forme de polar. Et ils en avaient fait un jeu vidéo qui s'appelle The Wolf Among Us, si ça te parle, qui a été fait par Telltale de mémoire à l'époque.
Ouais, c'est vrai.
Et ça fait vraiment penser à ces ambiances-là. Et bon, je te rejoins, je suis pas forcément ultra fan de ça. Et en fait, quand j'avais vu les premiers visuels du jeu, je me demandais si c'était un dérivé de Curse of the Dead Gods, tu sais, vu que visuellement, ça se ressemble quand même beaucoup. Mais du coup, a priori, pas du tout, en fait. Il n'y a aucun lien entre les deux jeux.
Non, enfin, si ce n'est que c'est le même studio, tu vois, quand même.
Oui, c'est ça.
C'est pas, l'un n'est pas la suite de l'autre, du tout. Mais tu vois, sur l'aspect conte de fées, il y a par exemple le Pied Piper, je ne sais pas comment il s'appelle en français, le truc qui contrôle les rats avec sa flûte, c'est ça ?
Ah, le flûtiste de Hamelin ?
Voilà, exactement. Et au début, je me disais, mais c'est cette connerie, les flûtes, tu attaques avec de la musique, c'est bon, ça va, quoi. Et en fait...
Attention, attention à notre invité, ne pas le...
Bon, tu attaques avec des rats, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et en fait, au bout de 10 minutes, tu rentres complètement dans le trip et dans la boucle de gameplay, les 30 secondes de fun, comme diraient certains designers, et tu es à fond, quoi. Moi, j'étais complètement conquis, même par ce truc qui n'était pas mon trip à la base. Et il y a vraiment un biome aujourd'hui, donc c'est, comme je le disais, chaque jour qu'on fait à peu près 20 minutes, donc comme on a 5 jours, ça fait 25 minutes de jeu pour un run maximum. Après, il y a une plus grande difficulté, machin, il y a tous les personnages à monter, etc. Mais l'early access est un poil limité aujourd'hui, même s'il y a quand même du fun à avoir, mais ça fonctionne complètement. Et du coup, je peux complètement imaginer, parce que la carte est aléatoire, mais on voit qu'il y a différentes petites zones, elle est un petit peu ramassée, la carte, et on voit où il y a le boss de fin de niveau, et on peut y aller dès le début si on veut, mais on peut imaginer qu'on va essayer d'aller faire des endroits où on va avoir des améliorations en plus, ou alors on focalise sur l'XP pour monter de niveau max et avoir son ultimate suffisamment tôt, et puis rusher le boss pour aller très très vite. On sent une profondeur de jeu comme ça sous la surface qui pourrait vraiment se prêter à beaucoup de plaisir de jeu, et en mode roguelite, je pense que ça fonctionnera totalement. Je ne m'attends pas à un succès à la Hades, mais il n'y a pas vraiment de narration ou ce genre de choses, à ce stade en tout cas. Mais par contre, niveau gameplay, on est comme Curse of the Dead Gods, dans le haut du panier, quoi.
Ouais, c'est hyper. Moi, je suis pas un très 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 grand connaisseur. Quand j'ai vu que tu allais en parler, j'ai testé un petit peu et je trouvais ça hyper plaisant. Franchement, voilà, moi j'ai retrouvé un petit peu du côté Dead Cells dans ce feeling un peu, à la fois un peu abrupt et à la fois cette immédiateté que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment au fil des minutes, tu cernes de mieux en mieux ton gameplay, ton personnage, et c'est très très chouette. Et plutôt étonné et une belle surprise. Ça peut être très très chouette.
Ouais. Et on sait quand est-ce qu'il sort de l'accès anticipé, du coup ?
Non, pas vraiment. Je peux.
Non, je ne crois pas qu'ils aient communiqué dessus encore. Ouais.
D'accord.
Il n'y a vraiment qu'un biome. Donc je crois qu'ils bossent dessus depuis longtemps. Ils ont des trailers assez aboutis depuis longtemps. Donc j'imagine qu'ils ont d'autres biomes prêts à sortir et qui vont animer l'Early Access. Mais non, on n'a pas de date de sortie encore.
Du coup, plutôt manette ?
Ah oui, oui, complètement.
Non, ouais, manette, ouais, carrément. Ouais.
Tu peux jouer techniquement au clavier, mais c'est vraiment manette, oui. Y a des gens qui disaient qu'il était très difficile. Franchement, moi, je n'ai pas trouvé. Tu as un certain nombre de résurrections si tu meurs et tu peux... Ouais. Dès la première partie, je suis arrivé quasiment au boss du premier biome. Donc, et je ne suis pas spécialement super bon sur
Oui, pareil. Je crois, ouais, deuxième run, je crois que je suis arrivé jusqu'au boss. Je suis pas mal avancé dedans. Je me suis fait rétame au bout d'un moment et je ne suis pas très patient. Mais ouais, c'est... effectivement. Mais on sent toute la profondeur du truc derrière, justement, pour réussir à avoir les capacités de franchir tout ça. Donc,
ouais.
Et vraiment, le gameplay est tellement cool, manette en main, il y a vraiment tellement un feeling super chouette que bon, ça donne envie de creuser. Quoi.
Ça n'a pas vocation à être joué en multi, du coup, c'est vraiment du solo.
Si, carrément, au contraire. Même. Ouais. Moi, comme Patrick, je l'ai fait tout seul, j'ai vraiment fait dans mon coin un petit solo, mais carrément, j'imagine à plusieurs ce que ça doit être, et je pense que le plaisir est vraiment, vraiment la limite. Quoi.
C'est okay. Ça, oui. C'est ce que dit tout le monde. Moi, je l'ai vraiment bien aimé et les retours sont généralement seul, c'est sympa, mais à quatre ou à plusieurs, c'est
tu sens les interactions. Les personnages sont tellement différents. Tu sens que va pouvoir y avoir des interactions. Il y a des pouvoirs qui sont en plus qui permettent d'impacter les autres joueurs et tout. Donc,
tout à fait. Donc, et en plus, c'est pensé pour. Tu peux facilement inviter des gens, etc. C'est prévu. C'est un jeu qui est prévu pour le multi même.
Super.
Donc, Curse of the Dead Gods, pour le moment, c'est en Early Access sur PC, sur
Steam. Raven's Watch,
Raven's Watch, exactement. Raven's Watch, de Pastèque Games. Très bien, et ben voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Il y en avait un petit paquet et on va passer à la dernière partie où on vous tient informé quand même des choses importantes qui se passent, mais qu'on ne va pas traiter en longueur. D'abord, il y aura un trailer pour Tears of the Kingdom qui va être diffusé avec un live daté et tout par Nintendo aujourd'hui, ce soir. Je me demande même si je vais pas ne pas le regarder, quoi. Genre, je sais que je vais jouer à Tears of the Kingdom, je me demande si j'ai besoin de me spoiler plus. Mais bon, on verra. Et Nintendo a annoncé un event live, ils en avaient fait au Japon, ça s'appelle Nintendo Live, bien nommé. C'est en septembre aux États-Unis. Et ça pose la question un petit peu de genre, ils ont vraiment plus besoin de l'E3, quoi. On le savait déjà depuis longtemps dans le cas de Nintendo, mais là, c'est vraiment au revoir l'E3, on n'a plus besoin de vous, ça sera sur la côte Est en septembre. C'est des trucs, il y a...
Mais ils n'avaient pas déjà fait des events comme ça, notamment en France, à l'époque, de la Wii U et tout. Il n'y avait pas eu un truc un peu itinérant où ils se promenaient de ville en ville avec leur petite console pour montrer, non ?
Non, mais là, c'est genre un fan event, c'est une expo, quoi.
Ouais.
Il y a des tournois, il y a des jeux présentés, il y a un live stage.
Ah, oui, okay.
C'est pas juste pour faire tester la console, quoi.
D'accord, ok.
Je me demande si d'autres vont pas suivre ce chemin aussi, quoi. Parce que le désavantage quand t'as pas l'E3, c'est que tu peux pas faire jouer au jeu aux gens et aux journalistes. Bon, tu peux faire des press tours, des press events, ce genre de choses, mais là, ça anime les communautés. Et quand tu le fais pas à l'E3 où tout le monde est, tu peux choisir quelle ville quand ça coûte pas cher, quand tu as un parc des expos qui a besoin de te refiler un espace qui n'a pas été loué, ce genre de choses. Ça peut-être que... Bon, ils ont commencé les directs en quoi, 2011, et tout le monde a suivi 10 ans plus tard. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle tendance. Sony a également annoncé un State of Play aujourd'hui. C'est ça, hein, c'est aujourd'hui, sur Final Fantasy XVI. Là aussi, je ne sais pas si j'ai envie de le voir. Je sais que je risque de me lancer de toute façon. Enfin, je risque de lâcher de toute façon. Mais ça arrive encore un long trailer sur le gameplay ce soir de Final Fantasy XVI. Marrant aussi parce que c'est une grosse exclue Sony quand même, Final Fantasy XVI. Ils ne sont pas en train d'engueuler Microsoft parce qu'il y a des histoires d'exclus qui prennent...
Juste pour me faire plaisir, parce que t'en parles pas aujourd'hui, tu veux bien dire FTC pour moi, s'il te plaît?
Écoute, la semaine prochaine, dans 2 semaines, on devrait avoir une réponse, c'est la CMA qui répond bientôt. Donc, on aura un gros morceau de poussage de la FTC dans un sens ou dans l'autre bientôt. On aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, le PlayStation Plus de ce mois-ci, c'est quasiment que des jeux Microsoft. C'est assez drôle. C'est des Doom, il y a énormément de Doom. Mais il y a aussi de Wolfenstein, il y a Evil Within.
Il y a Kena, s'il vous plaît, Kena, pardon. Excusez-le.
Tout
Kena,
à fait,
Breath of Spirits, incroyable.
Tellement bien.
Faites-le. Mais ouais.
C'est
j'ai retrouvé un petit
hein.
peu de ça dans Chia, d'ailleurs. Il y avait un petit peu ce côté coloré, machin, Pixar. Il y a un petit peu de cet esprit-là. Ouais.
Donc PlayStation
Magnifique
Plus.
Aussi la musique.
Ouais, oh ouais, complètement dingue. Fabuleuse. Ouais. Oh, c'était. Ouais. Elle est enfin disponible sur Spotify d'ailleurs. Il y a carrément deux albums qui durent genre une heure chacun, une heure et demie chacun, complètement folle. Ouais.
PlayStation Plus Extra et Premium, il y a des jeux assez cool qui arrivent. Donc Kena, il est dans le PlayStation Plus Extra notamment, mais il y a aussi Doom Eternal, Riders Republic à tester, pourquoi pas, Wolfenstein 2, The New Colossus, The Old Blood, enfin il y a plein de trucs super bien. Il y a aussi Bassmaster Fishing. Donc,
enfin mais... Non, mais parce que quand même, je me demandais quand est-ce qu'il y aurait... Bah voilà, ok.
Hey, on se moque, mais Farming Simulator, c'est l'une des plus grosses ventes du monde.
Eh ouais, c'est fou. C'est clair.
Bon, surtout en Allemagne.
Il y a un univers parallèle, tu sais, des fois, sur certaines licences comme ça.
Mais ils n'ont pas leur propre convention
Fan
de jeu.
Fan convention, mais certainement. Certainement. Farming Simulator, c'est un gros jeu. Dreams ne sera plus updaté, alors il continue à être jouable, hein, mais Media Molecule se tourne vers autre chose, je le mentionne parce que Media Molecule, c'est un studio qui sort des trucs toujours originaux et intéressants, donc c'est quand même un petit peu... Bon, il va continuer à exister, Dreams, et les créations vont continuer à être disponibles. J'ai quand même eu un petit peu de... Je sais pas, j'aurais pensé que ça deviendrait plus gros, Dreams. Genre que les gens se mettent à faire des jeux, qu'ils soient dispo partout et qu'on en entende parler. Genre qu'il y ait une grosse sortie Dreams, genre incroyable. Ils ont fait tel jeu dans Dreams, tout le monde doit y jouer. En fait, non, c'était une démo technique, c'était peut-être un peu compliqué, mais ça n'a jamais donné quelque chose qui était vraiment une grosse sortie Dreams.
Ouais, c'est le genre de jeu qui se base sur sa communauté. Donc, si la communauté n'est pas active, c'est...
Ah, mais elle était hyper active. Hyper active. Mais peut-être que c'est parce qu'il fallait avoir Dreams pour jouer au jeu Dreams. Ils étaient peut-être pas... Je ne sais pas. Alors là, une rumeur qui va faire plaisir à certains. La rumeur de Persona 3 Remake non seulement persiste, mais en plus, il y a eu un leak qui laisserait penser... que possiblement il y a effectivement un Persona 3 qui arrive en remake. Ça, ils auraient tort de se priver. Hein. C'est quand même tout le monde qui s'y met à faire des remakes de jeux et Persona 3, il date un petit peu. Donc, bon, écoutez, on continuera.
Ah, mais et moi, surtout, je vois Jet Set Radio, pardon.
Ouais. On a déjà eu, comment il s'appelle, tous les jeux inspirés.
Non, non, mais en plus, je dis ça. Non, mais je dis ça juste parce que pour faire mon malin. Pour faire mon malin, je sais pas si aujourd'hui j'ai envie de jouer à Jet Set Radio, mais quand même, ces souvenirs dessus.
Ouais, Jet Set reboot, Radio, il parle de reboot, donc clairement, il y a
tu vois
ouais, oui, peut-être. Redfall, qui arrive dans 2 semaines, sera disponible seulement en 30 FPS sur Xbox. 1440 sur Xbox Series S et 4K sur Xbox Series X, mais uniquement en 30 FPS, vous voyez. Quand je vous dis que c'est sur console, on est quand même des citoyens de seconde zone. Vous mettriez une 4070 dans votre console, ok, elle triple de prix, mais elle pourrait faire tourner ça en 60 FPS. Bon, il arrivera, il y aura les modes 60 FPS, peut-être en moins grosse résolution, qui arriveront après la sortie. Et accessoirement, Tekken 8, il aura bien le crossplay, il aura bien du rollback netcode, et il y aura une bêta publique qui va arriver à un moment. Arada l'a confirmé. Je salive déjà, moi, de mon côté.
Le rollback netcode, c'est en cas de triche, pouvoir revenir en arrière sur le classement, c'est quoi le l'enjeu derrière ?
Pas du tout. Ah, est-ce que tu es sûr que tu veux ma réponse ? Il est déjà tard, je sais que tu as faim.
Moi, bah, est-ce que tu peux la faire en 30 secondes ?
En 30 secondes.
En faisant des pompes, en faisant des pompes si je te donne 50 balles.
Alors, le rollback netcode. Non, alors, le netcode, c'est le moteur de communication sur Internet du jeu, qui est hyper important pour des jeux de combat où l'action est à la milliseconde près. Et ce que fait le rollback netcode, c'est une méthode de prévision des prochains mouvements de l'adversaire. Et donc, le jeu, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'attendre d'avoir les données de ton adversaire qui arrivent, eh ben, il va présumer, imaginer, enfin prévoir ce que fait l'adversaire et commencer à te l'afficher sur ton écran. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais en réalité, c'est pas si bête, parce que si quelqu'un, si un ennemi, enfin si ton ennemi est en train d'avancer ou de reculer, tu peux dire que sur les 3 millisecondes qui viennent, bah, il va continuer à faire ça. Et donc, il affiche ça d'abord, et quand il finit par recevoir l'info de ton adversaire, il rollback, c'est-à-dire qu'il corrige, si nécessaire, les mouvements qu'il avait prévus. Et il se trouve que dans la pratique, c'est 10 000 fois plus exact que le fait d'attendre le code de ton adversaire pour afficher ce qui se passe, parce que là, tu es sensible à la moindre merde dans ton réseau.
Ah, c'est intéressant.
Et c'est un truc qui a été développé par les frères Canon, fondateurs de Levo, qui a mis très longtemps à être adopté par de nombreux jeux, et par, en particulier des jeux comme Street Fighter ou Tekken. Et du coup, le fait qu'il confirme l'implémentation du rollback netcode dans l'8 est hyper important, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sortir un jeu de combat sans rollback. Et pourtant, il y avait encore des jeux qui sortaient sans rollback. Donc bref, voilà, c'est pour ça.
Eh bien, merci pour l'explication.
Bah, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? EA Sports FC, donc l'ancien FIFA, a annoncé, a fait une grosse annonce. En gros, EA Sports FC a à peu près tous les clubs. Donc, tous les clubs, toutes les ligues, tous les joueurs, ils sont arrangés avec FIFPro, ils sont arrangés avec les ligues directement. Et ce n'est pas si surprenant pour EA, mais moi, ce qui me surprend plus dans cette histoire, c'est de voir à quel point la FIFA a merdé. C'est-à-dire qu'ils recevaient 1 milliard par an de EA, ils ont dit non, non, on en veut 2. EA a dit ok, bah vous aurez 0. Et là, tu te dis bah, FIFA, ils ont prévu le coup. Ils ont un jeu dans leur coin, de leur côté, pour concurrencer le jeu d'IA, de EA, qui va s'appeler FIFA. Et du coup, ça sera. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont acheter FIFA et ils pourront se faire une place. Bah non. En fait, il n'y a pas de jeu FIFA qui arrive avec.
C'est ouf. Ils avaient une petite rente pépère, les gars. Et ça, ouais.
C'est incroyable,
c'est
quand
dingue.
Même.
Ouais, c'est dingue, cette histoire. Ouais.
Vous, alors, c'est, en fait, la FIFA, ce qu'elles ont dit, c'est « Mais on aime l'argent !» C'est ça.
Voilà.
Ils se sont réveillés, ils se sont dit « Est-ce que vous voulez 1 milliard tous les ans ou pas ?» Ils ont dit « Non, en fait, non, on ne veut pas. » Ok, bon, bah, dans ce cas-là, on ne va pas vous le donner. On va faire comme ça. Arma, les développeurs de Arma ont annoncé un jeu qui a l'air intéressant, à la StarCraft slash un FPS. En fait, c'est un mélange entre un jeu de stratégie et un FPS. On arrive, c'est vraiment entre StarCraft et merde, comment il s'appelle ce film de...
Ah, c'est Starship Troopers, Star,
voilà, qui était déjà carrément. StarCraft, c'était
voilà.
C'est carrément Starship Troopers.
Ah ouais, carrément.
Sauf
les nazis
être,
au moins, quoi.
Sauf qu'on peut être en mode RTS ou en mode FPS pour rentrer. C'est un petit peu un fantasme de ce genre de jeu. Il y a d'autres jeux qui font un petit peu la même chose avec un commandeur et un... c'était Natural Selection, ce genre de truc.
Ouais.
Donc, à suivre. Ça. C'est annoncé. On ne sait pas quand ça arrivera, mais à suivre. Ça s'appelle... comment il s'appelle je ne sais plus. Ils n'ont pas annoncé. Ah oui, Silica. Ça s'appelle Silica, à suivre. Quoi d'autre ? Warhammer 40 000. Alors, vous vouliez jouer à Endless Dungeon, mais finalement, il ne sortira pas. Vous vouliez un autre jeu pour le remplacer. Bah, y a Warhammer 40 000 qui arrive le 23 mai. Et vous savez quoi ? Il a l'air pas mal, Warhammer 40 000. C'est un rétro moderne FPS qui est vraiment ces genres style Doom ou Quake à l'ancienne. Et ça a l'air plutôt sympa. Donc, moi, je regarderai Warhammer 40 000 Bolt Gun le 23 mai. Et enfin,
bon, il y en a marre des trucs à mettre que des Space Marines, quoi. On pourrait pas mettre des Eldar un peu là dans les à la place, quoi. C'est un petit peu plus raffiné quand même, pardon, mais ces gros Space Marines tout nazes là, il y en a marre.
T'as dit quoi, des Eldar?
Oui.
Les Eldar, mais bien sûr.
Oh là là,
c'est les elfes de Warhammer 40 000, ouais.
D'accord,
on a
d'accord.
Avec nous, tout, Mac.
Oui, je suis désolé, je ne suis pas un grand spécialiste de Warhammer, mais peut-être que.
J'ai dépensé tout mon argent chez Games Workshop pour acheter mes Eldar et résultat, tous les jeux qui sortent à chaque fois c'est du Space Marine, quoi. Non mais arrêtez.
Écoute, peut-être que Half-Life Alyx te contentera. Figure-toi qu'il y a un mode pour Half-Life Alyx qui est dispo qu'en VR pour y jouer sans la VR. c'est désormais disponible. Bah, tout le monde n'a pas un casque VR, surtout pas un casque VR qui peut faire tourner Half-Life Alyx. Bah, vous pouvez jouer au clavier et à la souris maintenant. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même expérience, mais c'est quand même un Half-Life, donc vous pouvez vous en donner.
Est-ce qu'on risque pas de passer à côté de l'intérêt du jeu?
Je te laisse répondre à cette question.
La réponse est oui.
Potentiellement. Un article intéressant, tiens, que je mettrai peut-être dans la newsletter, je ne vais pas vous saouler trop avec, mais il y a un article intéressant sur la manière dont des illustrateurs en Chine commencent déjà à avoir moins de travail, voire à perdre leur travail, parce que l'IA fait des illustrations pour eux plus rapidement et moins cher. Forcément. Alors, on en parlait dans le rendez-vous tech depuis des mois déjà. Ça commence à arriver un petit peu partout. Alors, la Chine, c'est un contexte un petit peu particulier quand même. En plus, il y a eu l'attaque du gouvernement contre l'industrie du jeu vidéo dans le pays en 2021 qui a bloqué les sorties pendant plusieurs mois. Donc, c'est spécial. Mais l'article est intéressant pour voir comment ça se concrétise effectivement. Il y a aussi des éléments à noter qui sont, comme par exemple le fait que les joueurs remarquent que c'est des trucs faits par IA et que c'est quand même pas le top niveau, etc., etc. Mais l'article est plutôt cool. Il sera dans la newsletter que je publie, qui est plutôt une newsletter tech, mais c'est sur le site Rest of World. Et l'article, c'est « AI is already taking video games illustrators' jobs in China ».
Ouais, très intéressant. Je l'ai parcouru du coup grâce à ton lien là et ça fait réfléchir comment.
Ouais. Ça fait.
non mais ça fait penser au débat qu'il y a eu au moment de l'annonce de Ubisoft avec son Ghostwriter là, son outil d'intelligence artificielle pour simplifier l'écriture de certains dialogues in game et c'est
un petit peu
ça peut quand même soulever quelques soucis à terme par rapport à toutes ces petites mains, soulager effectivement certaines tâches, mais jusqu'à quel point et à quel prix, quoi.
Bah, les deux éléments qu'on voit qui sont notables, en plus du fait que certains joueurs disent « ouais, enfin ton truc par IA, ça se voit quand même », c'est qu'il y a une illustratrice freelance qui disait « on ne demande plus de faire les illustrations, on demande de faire des retouches sur des illustrations faites par IA ».
Refais les mains, s'il te plaît.
Ça, exactement. Et il y a un autre témoignage d'une personne qui travaille dans un studio qui dit maintenant, deux personnes peuvent faire le travail que 10 personnes faisaient avant. Donc, forcément, il y a des gens qui sont virés. Quoi d'autre ? Il y a un Vampire Survival-like qui arrive sur le thème du film Renfield, le film de vampire avec Nicolas Cage. C'est pas con, faire un petit Vampire Survival-like. En plus, j'ai regardé le trailer, je me suis dit, alors c'est quoi ce truc qui va être fait en 2 secondes, super moche pour être un tie-in avec le film. En fait, il a l'air très très beau ce jeu. C'est pas compliqué à faire en plus, un Vampire Survivor-like, donc why not. Bon, il y a aussi l'original qui fonctionne bien. Mais il est beau, genre un petit peu néon et plein d'effets de couleurs. Franchement, il est pas mal. Il a l'air pas mal. Et enfin, je termine avec cet incroyable moment de CSGO où un joueur... Vous avez vu cette vidéo ou pas ?
Ouais, ouais.
Je suis venu rien que pour ça, moi.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, c'est un joueur qui prend dans CSGO son fusil de sniper et qui commence la partie. Il envoie une grenade au bon endroit, évidemment, comme il faut sur CSGO, et qui sort son fusil, il tire dans la fumée et il tue toute l'équipe adverse en une balle. Mais une balle, bam, tout le monde qui est mort, qui a traversé tout le monde, machin. Et alors, évidemment, c'était pas visé.
Ça va très vite.
Et le mec, alors évidemment, le truc qui irrupte de joie et de plaisir dans son équipe, dans le voice chat, c'est marrant. Voilà.
Ouais, mais en même temps, le chef d'équipe, les gars, mettez-vous tous en randonnion, on y va.
C'est ça, peut-être que à terme, bon, disons que les probabilités que ça marche sont peut-être suffisamment faibles pour qu'on n'ait pas adapté toutes ces stratégies.
Avec River Phoenix en première ligne, on le voit là, non, ça pouvait pas bien finir.
Eh oui, exactement.
Dans la capture d'écran. Bon, ça, il y a que les vieux qui peuvent comprendre cette blague, je m'en excuse.
Et c'est sur ces bons mots qu'on va terminer cet épisode. Un immense merci à tous les deux d'avoir été là. Un moment de plaisir partagé. Allez, je peux plus maintenant, Eska.
Je m'abstiens. Mais même Fanny a fait une remarque dans le chat tout à l'heure sur le choix des mots. Hein.
Oui. D'ailleurs, voilà, exactement. Merci à tous les deux. Du coup, écoute. À la fin de l'épisode, retournement de situation, tu es passé seconde dans le classement des co-animateurs en raison de ta perturbation de l'émission. Eska, du coup, tu passes en premier.
C'est l'histoire des colons qui t'a eu, ça, Eska.
Complètement.
C'est le dérapage de trop. Hein.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Eska?
On peut me retrouver sur Twitter, @escarina_, sinon sur KissMyGeek, et aussi chez SuperGamerSide. Bien évidemment, si je suis encore acceptée dans un mois, tous les deuxièmes jeudis du mois, dans cette émission.
On verra si j'ai survécu à mes pompes dans Battle 4.
Échauffe-toi avant et tire-toi après.
That's what she said. Thomas.
Alors attends, mais on peut pas me critiquer. Hein.
Tu m'as infecté. Thomas, où es-tu sur Internet?
Je suis là. Eh ben écoute, oui, sur Twitter, @amaibi_. Et puis, depuis le début de l'année, j'ai changé de crèmerie. Je suis allé là où l'herbe était verte. Donc maintenant, je travaille pour Numérama. Pour qui je fais quelques tests de temps en temps, c'est très très cool. D'ailleurs, j'ai un test qui sort la semaine prochaine. Et premier gros kiff, je vais enfin avoir une première publication dans un magazine. Parce que,
on t'entendait plus. Gros kiff, tu vas avoir une publication dans un vrai magazine
papier. Oui, c'est complètement fou. En 2023, on y est encore. Je vais participer au prochain jeu vidéo magazine, le numéro du mois de mai, du coup, avec un gros dossier sur un jeu. Voilà. Donc ça, c'est super fier parce que moi, petit lecteur de Joypad, Console Plus, Megaforce et tout, je suis super content après 20 ans de journalisme jeu vidéo, d'être enfin sur du papier. Et en parlant de papier, bientôt, surveillez vos librairies, c'est sûr. Il y aura bientôt un livre avec mon nom dessus. Et c'est vraiment complètement dingue. Voilà, qui sera apparaître chez Third Edition. Donc, peut-être également aller les suivre sur Twitter pour l'annonce qui arrivera dans les semaines qui viennent, je pense. Voilà.
Magnifique. Super. Merci à tous les deux. Les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. C'est le plus simple. Il y aura, par exemple, le lien vers le sondage dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez me contacter sur Discord, par exemple, ou sur Twitter, ou où vous voulez pour cette histoire de modérateur pendant Battle 4. Finalement, peut-être que si c'est la même ambiance, on aura besoin d'un petit peu de travail de modération. Et puis, vous pouvez trouver le Discord aussi, où on s'amuse bien, dans les liens, dans les notes de l'émission. Et évidemment, le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Je ne sais pas si cet épisode vous aura encouragé ou découragé de donner. Si c'est le premier, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir les créateurs que vous appréciez. C'est tout pour nous aujourd'hui. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao.